Et c'est reparti jusqu'à 14h, les amis. Mon nom, c'est Yannick Marceau. Très content de vous accompagner en compagnie de Pascal CV qui est là.
As-tu hésité sur mon nom?
Il y a une petite tendance à me juger. Je sais pas, les gars qui nous écoutaient. Les filles, on veut rien savoir parce que vous autres, vous êtes beaucoup trop normales.
OK.
Mais les gars, là, y en a-tu qui écoutent toujours les mêmes affaires, mettons sur Netflix ou sur d'autres plateformes? Tu sais, un film que t'as vu comme 10 fois, puis pour te relaxer, tu le remets parce que ça te fait plaisir.
The Office, je pense, fait partie d'une des séries les plus réécoutées.
Moi, c'est Die Hard. Die Hard, je dois l'avoir écouté 250 fois.
Si je peux me permettre, dans ton genre, Fast and Furious, Slapshot, Rocky...
Fast and Furious, j'ai jamais accroché là-dessus. Slapshot, j'ai vraiment, vraiment trippé.
Rocky?
Rocky 1 m'a fait vraiment tripper. Puis d'ailleurs, j'ai longtemps cherché mon Adrienne. Je cherchais une fille qui ressemblait à Adrienne. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné.
Non, c'est ça.
Mais puis là, c'est de ce temps-ci, je suis poigné sur le film d'Elvis.
Ah, ben oui. Ouais. Avec la musique aussi que tu dois écouter chaque jour ou presque.
Ouais, chaque fin de semaine.
OK.
Mais on dirait que c'est rassurant d'écouter ça. Je ne sais pas pourquoi.
En psychologie, il disait que les gens autistiques et TDA ont cette tendance-là.
Ouais.
À refaire soit les mêmes journées en termes de routine et ou se sécuriser avec les mêmes choses qu'on écoute ou qu'on visionne.
Ouais. Pour me sécuriser, ça, je le sais pas. C'est juste qu'il y a des trucs que je sais, il y a des trucs que je sais que j'aime. Là. Les répliques de Slapshot.
Ouais.
Je mets le film puis je suis capable d'y coller même avant qu'ils disent puis ça me fait triper.
C'est ça.
Cheech et Chong. Je t'ai parlé de ça la semaine passée.
Non, je veux pas que tu recommences.
J'ai écouté Cheech et Chong.
Ça a l'air pourri.
Samedi soir, pendant que tout le monde dormait à la maison, moi, je riais comme un cave. C'était... si t'écoutes ça avec tes... Si tu regardes ça à la télé, avec tes yeux de 2025, tu vas dire, je peux pas croire que vous avez trippé là-dessus. Mais si tu te remets dans le contexte de l'époque, là, Cheech et Chong, c'était quelque chose. Sérieux. Là.
As-tu déjà écouté Kung Pao?
Kung Pao, j'ai
écouté
ça.
C'était un genre de film asiatique, mais avec une traduction québécoise par-dessus, qui a passé underground, mais qui est très connu de certaines personnes.
J'ai découvert ça quand mes gars sont nés. Je sais que ça faisait longtemps que ça virait, mais ça avait passé à la télé généraliste. Puis,
ça avait passé à la télé.
Oui, puis je berçais les gars à la fin de semaine. Puis là, il y avait ça à la télé. Puis je m'étais dit, mais pourquoi j'avais pas écouté ça avant? Kung Pao, j'avais trippé,
Avec Betty. est-ce que tu... Vraiment, on parle du même film?
Oui.
Oui?
Ben oui, Kung Pao, c'était quelque chose. Là,
combien de kilomètres? Ça, OK, pour
vrai? C'était du grand n'importe quoi. Puis je pense que la raison pour laquelle je réécoute ces trucs-là, c'est que ça me dérange pas de m'endormir dessus.
Ça fait beaucoup de noix, ça!
Ça me dérange pas de m'endormir dessus.
Mais je pense que c'est inconscient, mais pour vrai, mettons, sécurisé, c'est pas quand t'es en crise de panique ou autre, là. C'est juste, c'est confortable.
Ouais. Tu sais, j'écoutais, là, j'ai pogné la série, je sais que ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais Messia. Sur Netflix, c'est une série qui laisse prétendre que l'individu qui est dans cette série-là, c'est la réincarnation de Jésus. Mais dans notre temps à nous.
Et
là,
les
services américains commencent à s'intéresser à l'individu parce qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent.
Okay.
Puis tout le long de la série, tu te doutes que c'est peut-être le retour de Jésus. Après ça,
c'est-tu bon à date? Je suis pas sûr.
Un témoignage de son frère qui dit, ben non, c'était...
Judas, il est-tu là-dedans aussi?
Ben,
Moïse, c'est par-dessus les eaux.
Ces personnages-là, si tu connais bien la Bible, reviennent un peu dans cette série-là. Son frère qui le trahit en disant « Non, nous autres, on était des enfants. » C'est pas vrai, là, c'est pas le Messie. Là. Nous autres, on était des enfants puis on s'amusait dans des jeux de magiciens et tout ça. Puis tu suis la série, puis moi, je suis pas un gars croyant pendant tout, mais tout le long, tu sais, ce qu'il dit, c'est super à entendre. Puis là, à la fin, puis là, je vous raconte pas la fin, mais la fin est exceptionnelle aussi, là.
À date, je suis pas vendu là.
Mais c'est pas ton genre, toi.
À moins que tu me dises que quelqu'un dans ce film-là pourrait revenir...
Moi, c'est
dans
plus Desperate Housewife.
Non, tu me connais mal. Honnêtement, sauf Gilmore Girls, là, c'est pour embarquer dans ce genre de série-là. Mais si tu me dis qu'il y a quelqu'un qui pourrait réapparaître en 2025 dans notre vie réelle et qui changerait au grand désespoir d'Olivier Primo l'eau en vin, j'accroche. T'étais pas là, hein?
Non.
Colvasse, Yannick! Reste avec moi.
T'as eu 5 secondes.
Sérieux? Y'a-tu quelqu'un qui m'écoutait?
J'étais en train de lire les auditeurs.
Ah, bon, super. Y avait-tu une seule personne avec moi?
Yellowstone, c'était écœurant, effectivement.
Okay.
Je serais capable de réécouter ça, Yellowstone, sans aucun problème. J'avais adoré.
J'ai adoré Game of Thrones, mais je me retaperais pas les épisodes parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais j'avais hâte, puis je me souviens d'être allée en vacances en Californie, puis les épisodes sortaient en avance du côté des États-Unis. Puis même en Californie, on s'était assis le soir pour écouter les épisodes qui sortaient. Là.
Mon chum Colas, il dit, moi, c'est les deux films de Kill Bill que je me tanne jamais. Graine de psychopathe, mon Colas.
Breaking Bad aussi, quelqu'un qui nous écrit ça, c'est un peu psycho.
Breaking Bad, j'ai adoré. J'ai eu un deuil à faire après cette série-là. Okay. Parce que sérieusement, les deux personnages principaux de Breaking Bad là, étaient devenus comme mes meilleurs amis. Puis je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver après. Puis quand la série a terminé, j'ai eu un down. 24, Jack Bauer avec Kiefer Sutherland. J'ai vraiment trippé sur cette série-là. Mais les séries que je réécoute souvent, c'est des vieilles séries. Les films que j'écoute souvent, c'est les vieux films.
Ted Lasso, t'as-tu écouté ça, Yannick?
Ted Lasso, non.
Hey, sérieux, faut que t'écoutes ça. C'est tellement bon, là. C'est une des séries qui m'a le plus accroché. Puis quand tu parles de deuil, j'en ai eu un à faire. Moi, je suis encore triste que cette série-là soit finie.
Ouais.
Elle s'écoute bien, elle relaxe. C'est un entraîneur de soccer qui, initialement, connaissait rien au soccer, qui se fait engager pour détruire l'équipe parce qu'il y a un couple qui se divorce. Puis dans le divorce, la femme, pour le faire chier, son ex, apprend l'équipe de soccer de son ex, puis elle dit, moi, je veux la détruire. Fait qu'elle engage un coach initialement pourri pour coacher les joueurs de soccer. Elle voulait détruire le club.
Okay.
Mais le coach qui est là, il est vraiment bon.
J'ai bien aimé aussi Weekend chez Bernie, que j'ai écouté souvent. Porky. Toi, tu dois pas avoir écouté ça, Porky, c'est vieux.
On dirait soit une émission pour enfants ou soit une émission de 18 ans et plus.
Puis j'étais jeune à l'époque. Puis Porky, là, je veux dire...
Porky!
Ouais, j'écoutais ça parce qu'il y avait des filles légèrement vêtues.
Ben, c'est ça, Porky.
Et pas vêtues du tout.
Mais c'est pas un film à réécouter.
Porky, c'est incroyable.
T'écoutes quoi, 10 minutes de ce film-là?
Sébastien, qui me fait penser au Western Spaghetti, ça fait partie de mon enfance avec mon père. Moi, mon père, j'écoutais la lutte, il gueulait après les lutteurs parce qu'il avait l'impression que les lutteurs l'entendaient pendant qu'il gueulait. Puis on écoutait tous les films de Terence Hill puis Bud Spencer. C'est des Western Spaghetti. Puis moi, j'étais Terence Hill, puis mon père était la grosseur de Bud Spencer pour de vrai dans la vie. Je pense qu'il était un petit peu plus grand, mon père. Puis ces films-là, c'était incroyable. Puis, tu sais, il n'y avait pas de jeu d'acteur. Là. C'était juste, on arrive dans une ville, Terence Hill, il foutait le bordel, puis Bud Spencer pétait la gueule des gars.
Est-ce que tu sais c'est quoi, les petits garnements? Ça, j'ai usé à cassette, là, terrible. C'est avec Alfalfa, tu sais, le petit gars avec la couette en l'air.
C'est pas ma génération, ça.
Okay.
Moi, si j'avais trippé là-dessus, probablement que la police serait venue me voir. Monsieur Marceau, ça... Alfalfa, ça va? On vous demanderait de ne pas vous promener proche des garderies.
C'était tellement bon! C'était tellement bon.
Si t'as connu Porky, ben, tu connais Benny Hill. Ben oui, Benny Hill, c'était une vedette à l'époque. On parle de choses que Pascal connaît pas, j'aime ça.
Benny Hill, ben voyons, je veux dire, c'est pas parce que je... pas né en 1934 que je connais pas les grands moments de l'histoire non plus.
Parfait. Chante-moi la chanson de Benny Hill.
Mais j'ai juste dans la tête. C'est tough quand même à chanter. Porky, non. Ça me dit rien.
Ça aussi, La folle journée de Ferris Bueller. Ça, c'est malade.
La vie est belle, je l'ai écouté beaucoup.
Ça, c'est plus...
C'est tragique.
Ouais, c'est plus jeune que moi.
Mais...
La vita est belle, là.
Oh, c'est tellement bon. Si vous avez pas vu ce film-là... Oui. Si vous avez pas vu ce film-là, là... C'est absolument à voir.
Ferris Bueller, ils prennent le char de course de son père, il fait faire trop de kilométrage, puis après ça, ils se disent « Hey, on va mettre ça dans le garage, puis on va mettre une brique sur la pédale à gaz, puis on va faire reculer la voiture, donc par le fait même, l'odomètre. » Ça fonctionnait dans le temps, soit dit en passant, puis à un moment donné, ben, le char est tellement brassé que ce qui servait à surélever le véhicule est tombé, puis le char, il était complètement démoli.
Ça, c'est un film, le fun?
C'était malade.
Ça?
Oui.
Yes! On écoute ça?
Je sens beaucoup de jugement.
Oui, tous les Harry Potter ou encore les Seigneurs des Anneaux.
Ouais.
Écoutez, je sais pas combien de fois j'ai écouté.
J'avais 20 ans.
Mais oui, mais c'est pas parce que t'avais 20 ans que c'était pas intéressant. Harry Potter, peut-être au début, moins ton âge, mais je veux dire Seigneurs des Anneaux. J'avais la chienne, moi, au début. Je veux dire, ça veut dire que quand t'étais majeur, t'aimais ça.
Seigneur des Anneaux, je l'ai écouté. J'avais acheté, c'est comme toutes les DVD, là. S'il y avait plusieurs DVD, je pense qu'il y en avait 4 de mémoire. J'avais acheté ça.
On était à 3, là, 3. Mais ouais. T'avais-tu les versions longues ou pas?
Si je pense que j'avais... Ben, je suis dessus, moi.
Et tu... J'en avais peut-être 4, je c'est une trilogie.
Je mettais ça dans mon DVD.
Ah, oh. Oh, mais ça, là, J'adore. Quelqu'un qui dit « Quand je veux pleurer, j'écoute Marley et moi ». Ça, là, c'est quelqu'un dans les... ouais, okay. Il doit pas être si loin de moi.
Hey, le film Weird Science, as-tu déjà écouté ça?
Non, là, tu me perds.
Je me rappelle plus comment ça... C'était quoi le titre en français? Weird Science. C'est les deux gars qui tentent de créer la... Ah, c'est Créature de rêve. C'est les deux gars qui tentent de créer la femme parfaite, mais sur ordinateur.
Arc, ça, c'est le fun!
Puis au moment où ils ont à choisir la poitrine... Curieusement, c'était plus. La femme dans Créature de rêve.
Non, mais ça va-tu, gros jambon, là?
La femme dans Créature de rêve, c'est Kelly LeBrock. J'ai longtemps cherché ma Kelly LeBrock.
Le film, Créature genre le rêve. Synopsis du film,
ouais.
C'est une gang
de gars,
qui
sont deux.
Qui créent la femme parfaite avec du triple D. Quand le double D existe, mais pas le triple.
Ouais, peut-être.
Non, je peux pas te blairer, moi, avec des idées de film. Nocentrie.
Cocoon. Cocoon, c'était bon aussi. C'était l'âge à mon père, par exemple. Cocoon, mon père trippait là-dessus. Là. Je sais pas si t'as déjà écouté ça. C'était des gens d'environ 70, 80, 90 ans qui étaient sur un genre de resort. Puis à un moment donné, les extraterrestres débarquent, mais ça leur prend de l'eau pour pouvoir conserver les œufs. Là, je vais grossièrement, parce que ça fait longtemps que j'ai écouté ça. Puis, les œufs sont dans la piscine. Puis, quand les personnes âgées, ils vont dans la piscine, bien, ils retrouvent des airs de jeunesse.
OK.
Mais ça diminue la vitalité des extraterrestres. C'est vraiment bon.
T'es-tu ça?
Mais ça, je pense que c'est des années fin 70, Coco, peut-être. Là.
Hey, Spice World, as-tu écouté ça?
Non.
Hey, ça, c'était bon. C'était le film là qu'ils ont fait... Hey, Yannick, c'est sûr, t'as écouté ça? Le film avec les Spice Girls.
Non, c'est...
Basket spatial.
Oui, je pense que je vais suivre le conseil des auditeurs. Baissez le son à Pascal.
Basket spatial.
Non.
Avec Michael Jordan.
L'école de ski s'envoie en l'air. Ça, c'était très bon.
Tellement au bout, là.
Comment ça
On
s'appelait?
On peut-tu finir?
Comment ça s'appelait la série de films? C'était des polices. Ben, je pense que c'est Police Academy. Il y en a genre 8. Okay. Ils étaient tous bons.
C'est quoi, là, ta prochaine suggestion? Ça va être American Pie?
Jimmy, ça va? Il me dit Charlie's Angel.
Ben, c'est ça. Après ça, vous allez me dire American Pie.
American Pie, c'était très bon.
OK, après ça, vous allez me dire quoi?
Back to the Future. C'était très bon.
Oui, c'est bien.
Marie-Pierre qui dit « Classique de chez nous, la soupe aux choux. » Sérieusement, ça a été dans mes premiers films que j'ai écoutés à télé. Puis l'acteur français qui était là-dedans, c'est devenu une méga star. Là.
La soupe aux choux. Mais c'est quoi le...
Il y en a deux acteurs qui me faisaient triper.
Ah ouais. Oh! Vas-y, après ça, là, moi, je vais te dire un des classiques que tu peux réécouter.
Jacques Villeray, c'était l'extraterrestre là, dans la soupe aux choux. Il était écœurant dans ce film-là, mais Louis de Funès, là, c'était mon acteur. Quand j'étais bébé, c'était mon acteur préféré. C'est comme Mr. Bean de votre époque. Là.
Dîner de con. Mais la version française.
Dîner de con, c'est très bon.
C'est tellement bon. Ça, c'est quoi déjà, là? Aide-moi. C'est épouvantable que ça m'ait sorti. Regarde-moi. Regarde ici.
T'as-tu dit Magic Mike?
Non. Moi, j'ai pas été dans vos catégories. Moi, le grand filet de porc au flanc proche de mon visage à la télé ou en vrai. Ça m'émoustille pas.
L'acteur de film d'action, Rocco Siffredi. Pascal, tu connais?
Je vais aller voir, ça semble italien. Rocco?
Siffredi. Fait image.
OK. Ouais. Acteur italien.
Oui, voilà.
Oh! Il joue dans quel film, lui?
Il joue dans plusieurs films.
OK, oui, je pense que je le reconnais.
C'est comme James Bond, mais XX, là.
Sinon, 3.
3? Ouais. Ça, c'est, j'étais plus vieux encore, mais c'était un très bon film.
Mais moi, à ce moment-là, j'ai appris que j'étais une femme aux hommes.
Ah oui, t'es quand même sur le tort.
Je veux dire, j'avais peur avant ça. Là, j'avais peur des pénis là, avant ça. Là.
Trois.
Quand il est d'entente, c'est Brad Pitt.
Comment ça s'appelle Brad Pitt?
Quand il est d'entente avec la fille qu'il a sauvée, là, c'est super toxique. Là,
il l'agresse sexuellement, oui. C'est ce moment-là qui fait triper. C'est un peu bizarre. Je l'ai écouté, le film, là.
Il l'agresse pas sexuellement.
Ben, c'est parce que c'est quand même le film qui a kidnappé.
Je trouve pas effectivement que c'est très, très sain.
Et qu'il l'a frappé aussi.
C'est un peu toxique.
Ça va, Pascal?
Mais le French, là.
Ouais. C'est ce French-là.
Ouais. Mais peut-être quand tu regardes... je me pose des questions, finalement.
Oui, oui, ça explique peut-être bien des choses. Mais quand tu regardes les vieux James Bond, là... les vieux James Bond, dans les premiers, là, ils contraignaient les filles à l'embrasser. Puis après ça, les filles commençaient à accepter le French.
Ouais.
Puis après ça, ils couchaient ensemble.
Mais tu sais, tu veux sûrement pas que je tombe là.
Tu vois ce film-là en 2025, les madames à moustache, ils vont perdre connaissance.
Bon, là ça, encore un commentaire de trop. Mais très honnêtement, ça nous a pas aidé assurément dans nos relations amoureuses puis dans vos comportements. Mais tu veux pas que j'aille là, sûrement que tu veux pas que j'ai une conversation sociologique. On a du fun.
On avait du fun.
Y a-tu quelqu'un qui va avoir du fun autrement, mais intelligemment avec moi?
Pascal, on dit que Luca Rocco Magnotta aussi était italien.
Non. C'est ça.
Salut Marceau, si je fais une demande de stage, j'espère que tu vas me backer. Je vais te dire tous les acteurs. C'est Pat qui m'écrit.
Je comprends rien.
Ouais, je pense qu'il va venir faire un stage. Et où il nous demande d'aller faire un stage de remorqueur, parce que c'était Pat, c'est un remorqueur.
Ah, mais je vais y aller, moi.
L'agent fait la farce aussi, c'était très bon. Merci, Francis.
Idiocratie, ça sort, mais moi, j'ai l'impression de le vivre à chaque jour, fait que j'ai pas besoin de regarder le film.
On me dit que le documentaire sur Rocco Siffredi est très bon, Pascal.
Arrêtez, vous êtes épais. Bon, assez. Trêve de plaisanterie douteuse. Merci pour vos suggestions. Shérif, fais-moi peur est sorti, ça doit être dans ton type de catégorie
Shérif,
de film.
Shérif, fais-moi peur, vraiment, avec les frères Duke, le char. Je veux dire, je rêvais d'avoir
t'es
un
content,
char
t'as
comme ça. Eh oui! Je rêvais d'avoir un char comme ça à mes 16 ans. Bon. Il n'y en avait pas disponible parce que tout le monde les achetait puis les
t'avais
remontait.
T'avais aussi pas
là.
De cash pour ça à 16 ans.
Puis après ça, j'ai acheté un Mustang 5 litres.
Oui, justement, idiocratie.
Je l'ai payé pendant, je pense, 3-4 ans et je l'ai eu 3 mois.
Super.
Mais c'était un super de bon véhicule.
J'ai eu du fun.
Puis il y avait... Keith. Pourquoi j'ai Keith en tête? Tu sais, je pense que c'était un Transam qui faisait...
Là, t'es en train de me poser une question en imitant une tourterelle puis en me demandant de catcher c'était quel char.
Ouais.
Tu vas plus mal qu'on pense.
C'était David Hasselhoff. T'es-tu capable de chercher David Hasselhoff? Keith?
Pourquoi?
Je voulais un char de même aussi. Ah non, mais nous autres, on avait une enfance normale. Il n'y avait pas de Teletubbies.
Quand je vois ce que ça donnait, ouais. J'ai plus l'impression que c'est toi qui écoutais les Teletubbies entre nous deux. Là.
Génération Teletubbies.
Hey, j'ai mal l'impression que tu as écouté Cornemuse, Teletubbies puis tout ce qui est bizarre.
Merci Martin, c'est K2000. Ça, c'était malade. Ça.
J'ai toujours pas été capable d'écrire le nom du gars que tu voulais que je regarde.
Après ça, il y avait...
Ça finit-tu tes maudites suggestions de films plates?
Peux-tu nous laisser en gang? Merci aux 200 personnes qui m'ont écrit K2000.
Oui, tout le monde est là à répondre.
Cours après moi, shérif, on l'a dit.
Quelqu'un qui dit « La virée a été mon 3 à moi, version homme ». Ça dit quelque chose? La virée?
Non.
Non? Merci pour la façon d'écrire David Hasselhoff.
David Hasselhoff, mais c'est ça, c'était K2000.
Ah, ben oui, on le connaît.
Après ça,
oh,
il y avait
partout, ben oui,
le
ben oui.
Gars avec la moustache Magnum P.I. Ça se peut-tu? Ah oui, hey, check ça. Ça, là, j'étais jeune. On avait une télé.
On dirait Ron Jeremy.
J'avais une télé 14 pouces, noir et blanc, puis j'écoutais Magnum P.I. à
la télé. Mais là, c'est-tu l'affaire de 18 ans plus, ça, encore? Il ressemble à Ron Jeremy, puis Magnum, je sais pas, mais...
Non, c'est Tom Selleck, là. Okay. Non, c'était une vedette du temps, là.
OK.
Il t'avait toute une moustache.
Ah, oh, Danse lascive, Havana Nights aussi, là, dans la même catégorie que 3. Je rêvais d'aller à Cuba, puis de rencontrer un Cubain.
Miami Vice, des flics qui avaient un salaire de 40 000 par année, mais qui se promenaient avec les chars les plus débiles de la Terre. Miami Vice, ça m'a fait triper aussi.
Bon, Denis s'en vient. Hein? Denis s'en vient. Il t'a manqué une information que je t'ai dit, parce que quand je l'ai dit, je trouvais ça weird. J'ai dit, je rêvais d'aller à Cuba pour rencontrer un Cubain, mais c'est parce que... je savais que t'allais rire si tu l'entendais.
D'habitude, les femmes désemparées disent exactement ça. Les femmes désemparées et en moyen, là. J'ai tellement hâte d'aller à Cuba. Rencontrer quelqu'un qui a pas le choix de m'aimer pour survivre.
Ça va.
Hey, on va travailler après la pause, c'est promis. 418-971-1021. Je vais m'améliorer, patron. Je vais m'améliorer. Ouais.
Marceau le midi.
Il est tout sourire. Il prend du mieux de jour en jour depuis son scorbut de la semaine dernière. Denis Gravel est en studio.
L'important, c'est d'être prêt ce soir pour encourager son pays.
Ouais. Make Canada great again.
Yes. Je vais te lire un message, là. Message du gros orange l'autre bord.
C'est terrible.
C'est ce qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est Donald Trump qui parle. Je vais appeler notre grande équipe américaine de hockey ce matin pour les encourager à la victoire ce soir contre le Canada.
Il l'a fait, d'ailleurs.
Qui, avec des impôts beaucoup plus bas, et une sécurité bien plus forte deviendra peut-être un jour et peut-être bientôt notre précieuse et très importante 51e État. Je prendrai la parole ce soir devant les gouverneurs à Washington, D.C. et je pourrai donc malheureusement pas assister au match. Mais nous regarderons tous, et si le gouvernement, et si le gouverneur Trudeau souhaite se joindre à nous, il sera le bienvenu. Bonne chance à tout le monde et passez un excellent match de hockey ce soir. Tellement excitant. Non. Signé Donald G. Trump.
Fait que tous ceux qui reprochent aux gens de huer un hymne national en disant qu'on mélange pas la politique et le sport, ben vous pouvez dire que c'est le gros cave de l'autre bord qui a commencé.
Et là, Justin Trudeau vient de tweeter « Est-ce que le film Barbie est présenté quelque part au Canada au cinéma? »
Pas vrai, ça, là.
Non.
T'as-tu cru
là, tu
à
me faisais
ça?
Peur.
Mais moi, c'est toi qui me fais peur de penser ça.
Ah non, moi aussi, s'il m'avait fait ça, j'aurais cru ça. J'aurais cru ça vrai.
Oh, oh. Oui, moi, c'est à ce point-là que j'apprécie les politiciens.
Ça va être tout un match ce soir, mon ami. Ouais. Je sais pas si ça va commencer avec de la bagarre. Je pense pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir des mises en échec ce soir comme pas possible. Les gars vont tout donner.
J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus prudent comme hockey, peut-être dans les 10-12 premières minutes. Mais après ça, on a vécu un décrescendo le samedi. Là, ça a commencé fort. Puis après ça, on dirait qu'on a peiné à retrouver cette intensité-là en deuxième et en troisième période. J'ai l'impression qu'à soir, ça va être complètement l'inverse.
Ouais.
La nervosité, le stress va faire en sorte que ça va peut-être partir slow, ça va peut-être partir décousu un peu. Mais quand le feu va pogner, première mise en échec, vraisemblablement, là, à partir de là, on ne regardera pas en arrière.
Ouais, il va falloir que McDavid cesse d'être généreux avec la rondelle, là, parce qu'il y avait dans le match contre les États-Unis, on dirait qu'il cherchait plus à la passer qu'à la mettre directement
ouais,
au filet.
Faut lancer.
J'ai l'impression que ce soir, le mot d'ordre, c'est un peu, là, t'es Connor McDavid, t'es le meilleur joueur de hockey au monde actuellement. On te fait confiance pour lancer.
Là, on cherche pas le jeu parfait. Faut juste que les rondelles rentrent dans le net. C'est pas compliqué, là. Puis les grands doivent se lever. Il y a déjà des joueurs de l'équipe américaine qui disent qu'ils ont parlé à Trump par téléphone ce matin et qu'ils vont gagner pour Trump ce soir. Fait que c'est full politique. On n'a pas le choix. On n'a pas le droit de l'échapper.
Non. Puis moi, mes gars, ils ont dit « Papa, qu'est-ce qu'on fait à soir? Hein? » Ben là, je sais pas, qu'est-ce que vous autres vous faites à soir?
Hey, mais moi, c'est la première fois que j'ai hâte à une game de hockey de toute ma vie.
Moi, je suis au bar avec la gang, puis on va regarder le match. Eux autres, ils ont du hockey demain matin.
Ah.
Ils vont l'écouter à la maison, mais avec leur mère. Fait que c'est un peu plate pour
avec leur mère et une bière? Ouais. Ou...
Leur mère va juste demander, je comprends pas pourquoi vous écoutez ça, et les gars vont écouter ça en sachant que moi, je suis en train de m'amuser au bar, à boire de la bière avec les copains. Fait que ça va être toute une soirée. J'espère que vous avez préparé de quoi, que ce soit en famille ou avec les amis. Ça va être une belle, un bon moment. Pour
on a-tu vraiment des chances?
Ben oui.
On a vraiment des chances ou c'est l'espoir
notre
fait vivre?
Notre seul point faible est dans les filets. C'est notre seul
point faible.
Ben, c'est quand
même important. Je sais pas, je suis pas experte.
On sait pas comment il va sortir. T'sais.
Les meilleurs joueurs, c'est clairement Team Canada qui les a. De la façon que l'équipe américaine est constituée, est-ce que le fait justement que Charlie McAvoy soit pas là, qu'il y a peut-être un Tkachuk qui couvre une blessure, est-ce que ça va faire en sorte que c'est une équipe qui va être un peu moins agressive? Mais moi, la défensive de Team USA m'a tellement impressionné samedi soir. T'sais, avant même de parler des gardiens de but, je comprends qu'Elebok est pas mal meilleur que Bennington. Mais il y a pas beaucoup de scénarios où tu gagnes en scorant rien qu'un but. Donc, c'est les gros canons du Canada qui doivent parler. Crosby doit scorer des buts. Nathan MacKinnon doit scorer des buts. Connor McDavid doit scorer des buts. C'est pas compliqué. Là. C'est pas une grande recette mathématique. Il faut que les grands joueurs se lèvent puis qu'ils livrent. C'est aussi simple que ça.
Il faut que Hellebuck ait la diarrhée aujourd'hui.
Idéalement.
Ouais.
Idéalement.
Parce que lui, c'est le gardien de but des États-Unis. C'est le meilleur gardien de but actuel au monde.
Mais
tu lui souhaites la diarrhée et non de gagner contre lui.
Écoute, il y a plein de monde qui ont perdu le job en santé là, puis en détection virale aux États-Unis. Là, ben, peut-être que le résultat, c'est justement que Hellebuck va pogner le scorbut à Boston.
Tu penses qu'il va en avoir un Dodge au Canada à un moment donné?
Je sais pas.
Parce que ce qu'ils sont en train de faire là aux États-Unis, c'est de couper des postes qui servaient absolument à rien. Puis ils sont en train de se rendre compte que depuis des décennies, ils engrossaient la machine sans que ces gens-là puissent justement faire en sorte que les États-Unis fonctionnent de mieux. Ça prendrait un coup de barre comme ça au Canada, puis même au Québec.
Ça, c'est un côté de la médaille. L'autre côté, ben, tu as des experts en santé publique qui vont te dire que présentement, il y a des éclosions de rougeole dans le sud des États-Unis, puis que tu enlèves beaucoup de gens qui sont des experts là-dedans, puis dans l'information. Puis ça va faire en sorte que ces virus-là, ben, nous autres aussi, on va peut-être être pognés avec de plus en plus. Là,
puis
parce que les gens ne croient plus au vaccin, puis qu'on coupe l'information relative à la santé publique à la grandeur des États-Unis, ben, quand on va continuer de faire des échanges, les microbes vont suivre. Puis, tu sais, la fameuse phrase, quand les États-Unis toussent, le Canada a la grippe, ben, c'est peut-être des choses qu'on va voir dans les prochains mois et les prochaines années aussi, là, tu sais. Il y a comme deux façons de voir la patente. Puis c'est dans le mandat de 4 ans qu'on va constater les effets s'il y en a.
Parce qu'il y a certains endroits où ils ont coupé que ça n'a effectivement peut-être pas de bon sens, on va se le dire, mais de trouver tous ces milliards-là qu'on payait pour rien, de voir qu'il va y avoir des économies pour chaque Américain, je trouve ça incroyable. Mais ça va tellement mieux chez nous en santé. Je lisais un article de Félix Lajoie du Soleil qui parlait de ce qui se passe actuellement pour ce qui est de nos services ambulanciers. Denis, c'est juste hallucinant. Est-ce que tu sais, il y a combien d'appels actuellement qui sont logés au 911 pour une ambulance chaque jour? Mettons, en 2023, là, je vais prendre les chiffres de 2023, c'était 483 appels par jour pour ce qui est du 911.
Ce qui est énorme. Là.
Ce qui est énorme. Actuellement, là, les temps d'attente pour ce qui est d'une ambulance à Québec, ça peut aller jusqu'à 12 heures.
Tu sais, rendu à 12 heures, marche jusqu'à l'hôpital, ramasse ton bras, je sais pas, mais c'est pas supposé d'arriver. Moi, il y a un chiffre qui m'intéresse là-dedans, là. C'est combien? C'est 400 par jour?
Oui, là, on est à 460 par jour dans les derniers jours.
OK. Le pourcentage d'urgence là-dedans, c'est quoi? Si on veut être bien honnête, là.
Ben, en fait,
À
mes yeux, à moi, quand t'appelles au 911 pour une ambulance, c'est supposé d'être une urgence. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, il y en a qui prennent ça comme un taxi.
Oui.
Il y a des résidences pour personnes âgées qui disent, au lieu de l'envoyer en taxi, moi, de l'envoyer en ambulance, ça va être peut-être un peu plus confortable. Puis, anyway, on paye pas.
Ouais.
Ou ben c'est inscrit dans leur truc d'assurance. Mais Fred Maheu, que j'aime bien, que j'ai reçu une fois de temps en temps ici à la station, il disait que dans les derniers jours, c'est 460 appels par jour. Normalement, il roule autour de 250. Sais-tu, il y a combien d'ambulances qui virent à Québec actuellement?
Combien?
C'est 25 à 27 équipes d'ambulanciers qui patrouillent en même temps sur le territoire chaque jour et ça ne suffit pas.
Ben, ça. Pas besoin de sortir la calculatrice pour le constater. Puis, tu sais, je vous l'avais raconté, je l'ai vécu dans un tournoi dans le coin de Saint-Augustin, là, où il y a un jeune joueur qui est resté sa patinoire sur le dos pendant 1 heure et quart avant que l'ambulance arrive, effectivement. Puis, je comprends qu'à partir du moment où il bouge les extrémités, c'est pas urgent. Mais il y a quand même un code préventif qui dit ben on prendra pas de chance puis on va attendre des ambulanciers pour être capable de le sortir de sur la patinoire. Tu sais, parce qu'on veut pas faire de faux mouvements, on veut pas créer des blessures, on veut pas aggraver quoi que ce soit. Je comprends les gens de l'organisation d'être prudents, mais on a été 1 heure et demie à se poser des questions. Moi, si je suis le parent de cet enfant-là, on a bien beau me dire qu'il va bien, j'ai hâte que l'ambulance arrive. Là. Mm-hmm. T'sais, j'ai hâte que quelqu'un le ramasse. Là.
Quand j'ai rencontré les patrons ici à la station, quand ils ont dit « Hey Marceau, on aimerait ça que tu viennes avec nous autres », ils m'ont présenté un peu la station puis ils m'ont dit quelque chose qui m'avait marqué, c'est que pour ce qui est de Boulevard, ils voulaient qu'il y ait de la musique, du sport, de la musique rock, bien entendu, ils voulaient de l'opinion, mais ils voulaient surtout des gens à cette antenne-là qui puissent trouver des solutions, que ça vienne d'eux ou que ça vienne des professionnels dans les sujets qu'on parle.
Tout un défi quand même.
Ils voulaient surtout que les gens proposent des solutions puis je trouvais ça génial. Puis quand j'avais reçu Fred, qui est ambulancier, qui est le président du syndicat, il dit, nous autres, là, on en a des solutions qu'on peut présenter au ministre de la Santé demain matin. Ce seraient les meilleures solutions au monde, mais il n'y a personne qui nous écoute. Ce serait à l'hôpital, de laisser un ambulancier ou deux dans le garage qui s'occupe des civières quand les ambulanciers vont porter les patients. Si c'est un patient qui a un problème de cœur, tu comprends qu'il n'attendra pas dans le garage, mais si c'est quelqu'un qui s'est cassé une jambe, exemple, ben est capable d'attendre dans le garage le temps qu'on en prenne soin.
Là, tu parles d'ambulanciers, tu as dit des ambulanciers dans le garage, mais lui, ce qu'il proposait, c'était des infirmiers et infirmières.
Non.
De l'hôpital.
Ce qu'il m'avait proposé, puis il m'en a reparlé
parce qu'en
nombre,
il avait parlé de ça.
Ce qu'il m'avait proposé, c'est qu'il m'en a reparlé dans 3 semaines, c'est d'avoir un ambulancier ou deux parce qu'ils sont obligés de rester avec le patient jusqu'à temps que l'hôpital puisse les prendre en charge.
Oui.
Fait que c'est un ou deux ambulanciers pour s'occuper de toutes les civières qui sont pas priorité 1, exemple. Mm-hmm. Puis pendant ce temps-là, les autres gars peuvent partir sur le terrain.
C'est un autre appel.
Sais-tu ce qui est arrivé cette semaine? 2 heures et demie d'attente avec un patient dans un garage.
Dans le parking.
Puis c'était pas une priorité 1.
Ouais.
Ça veut dire que c'est pendant 2 heures et demie, c'est ton efficace, ambulance là. Est dans le garage puis t'attends avec le patient. C'est quelque chose qui n'est pas très urgent.
Tu sais, c'est hallucinant de voir le manque de communication. Puis c'est comme dans un paquet de sujets d'actualité. Il y a des cols bleus qui m'ont texté hier pour dire... Tu sais, nous autres, notre syndicat, là, on a su qu'on était en grève illimitée quand vous l'avez dit en onde à Boulevard. On n'a aucune communication. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Même les votes, on n'est pas au courant tout le temps. On est comme laissé à nous-mêmes. Tu regardes, il y avait un texte intéressant aussi concernant l'alcool au volant. Les policiers s'en occupent de moins en moins. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est tellement rendu compliqué de remplir la paperasse pour un cas d'alcool au volant qu'on préfère les laisser filer. Puis il y a des policiers sous le couvert de l'anonymat qui racontaient, c'est une fin de chiffre, là. T'arrives à une station-service puis t'as quelqu'un qui sent la robine, qui prend son char. Hein? Ben le policier va préférer le laisser aller que d'embarquer d'un cas qui va lui prendre 4 heures de paperasse. Tu sais, les gars disent, ben nous autres, on veut continuer là, de lutter contre l'alcool au volant, mais on a tellement de paperasse, puis c'est tellement compliqué qu'on préfère des fois plus le faire, puis lever les yeux, puis laisser les choses aller.
Hey, c'est super dramatique.
Ben oui, puis c'est un problème qui est abordé, puis encore une fois, le canal de communication semble coupé parce qu'eux autres dénoncent une situation, ils ont sûrement des solutions, puis il n'y a pas personne qui rebondit là-dessus, il n'y a pas personne qui réagit là-dessus. Si on a des solutions concrètes sur le terrain dans le cas des ambulanciers. En regardant un chiffre ce matin, le ministre de la Santé est comme obligé d'aller s'asseoir avec eux autres puis de dire « Hey, on va se prendre 24 heures puis on va mettre en place les solutions que vous avez trouvées. » Ça peut pas être pire que c'est là de toute façon.
Denis, les gars nous écoutent puis ils nous envoient de l'information, dont une vidéo qui est devant moi là, qui a été prise à 17h30 hier à l'Hôtel Dieu de Lévis. Il y a une quinzaine d'ambulances qui sont en attente pour rentrer un patient à l'intérieur de l'Hôtel Dieu. Je l'ai en vidéo.
Hey, ça, quand tu m'as appris ça, moi, je capotais parce que dans ma tête, les ambulances n'attendaient pas à l'urgence comme nous autres. OK, fait que ça, c'est toutes des ambulances qui sont dans le parking.
Oui, puis là, ça, c'est l'autre bord. Puis là, regarde, ils franchissent une autre porte, puis tu vois encore.
Il y en a d'autres.
Il y en a une quinzaine.
Tabarnouche.
Ça, c'est à 17h30 hier. Regarde, il y en a d'autres partout, là. Fait que les gars, ce qu'ils proposent, c'est de laisser des ambulanciers le temps que les infirmiers et infirmières puissent prendre le patient puis le rentrer à l'intérieur sur les civières.
Au lieu d'être 24 ambulanciers sur 12 ambulances, t'aurais deux personnes là en permanence puis les autres pourraient toutes repartir sur d'autres cases.
Exactement.
Ça m'apparaît simple et efficace.
C'est ce qu'ils avaient proposé là, 3 ans, quand j'étais arrivé, ben là 2 ans et quelques, quand j'étais arrivé ici à la station, je trouvais ça génial. Puis encore à ce jour, Christian Dubé ne l'aura pas porté oreille.
C'est triste parce que c'est une vidéo qui en dit long. Puis tu vois, les effectifs sont là, mais ils peuvent juste pas partir.
Il y a des points intéressants qui rentrent par texto, entre autres. C'est pas la première fois que je vois ça ou j'entends parler de ça, mais aussi dans les résidences pour personnes âgées. Le personnel qui se trouve à l'intérieur, parfois, est obligé d'envoyer à l'hôpital des patients qu'ils pourraient prendre en charge selon des compétences en santé, mais pour une raison X, ils les envoient à l'hôpital, en ambulance. Quelqu'un, entre autres, qui dit, tu sais, moi, ma mère, a fait des chocs vagales de temps en temps puis ils prennent pas de chance. À chaque fois, c'est un transport, mais c'est pas urgent. Puis là, c'est un enfant qui adore son parent, qui a la considération et l'émotivité de qui nous envoie ce texto-là. Là.
Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. J'étais assis, j'étais au poste de réception, puis il y a quelqu'un qui dit, la dame à 201, elle file pas. Et là, je dis, qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle a mal à la tête, elle file pas, elle va aller à l'hôpital. Je dis, OK, est-ce que je colle un taxi? Non, c'est beau, c'est fait, l'ambulance est appelée. Attends, elle file pas, elle a mal à la tête.
Hey, sur 400 appels par jour, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste de rien. Je suis convaincu que tous ces gens-là n'ont pas besoin d'aller à l'urgence en ambulance. Convaincu. Convaincu qu'on peut en enlever à moitié.
Mais
l'autre moitié, ben là, on a des solutions concrètes là, qui feraient en sorte que les ambulances seraient pas mal plus sur la route et sur les calls qu'à poireauter dans le parking avec le reste du monde qui poireaute à l'urgence.
C'est hallucinant. Merci beaucoup aux ambulanciers qui nous envoient de l'information actuellement. C'est le fun de vous savoir là, puis on aime bien ça jaser de ce qui se passe dans notre ville. En fait, c'est pas mal ça, notre mandat. Là. C'est une radio locale, puis on est proche de notre monde. Fait que merci beaucoup. Parlant de gens qui aiment bien nous envoyer l'information, les cols bleus hier qui m'ont écrit qu'ils se sentaient cheap parce qu'effectivement, ils ont voté pour une grève illimitée, mais ils savaient pas que les arénas puis les loisirs, ça allait arrêter pendant plusieurs jours jusqu'à temps que ça se règle. On vous en veut pas à vous autres en passant.
Mais factuellement, vous avez de l'air d'une gang de cocons.
Faites-vous entendre, si possible, à vos représentants syndicaux, crier le plus fort possible pour dire « OK, on va mettre des moyens de pression sur la ville, pas déneiger les alentours de l'hôtel de ville de Québec, laisser des poubelles là, pas ramasser ça. » Moi, je vais toujours être de votre bord. Mais empêcher les enfants de jouer leur game de hockey, il y a des gens qui vont être dans un processus de classement là, pour leurs activités sportives qu'ils font pour l'année prochaine.
Le soccer, entre autres, c'est là que ça se passe. Ouais. Pour les gens qui ont des sessions d'hiver et qui jouent dans les stades intérieurs. Écoute, à l'Arena Max Simono, t'as-tu vu les terrains de soccer intérieur? Ouais. C'est hallucinant. Ouais. Là.
Fait qu'ils pourront pas le faire, ce type de classement-là. Fait que ça va retarder tout le monde. Puis il y en a qui vont être privés de loisirs et de sport. Fait que, tu sais, je suis pas mal persuadé que tout le monde est de bonne foi là-dedans, mais les représentants syndicaux devraient réagir rapidement. Puis c'est le temps de le faire. Parce que là, de plus en plus, les journalistes creusent à savoir qu'est-ce qui leur a été offert. Puis ça, c'est rendu public. Puis t'es tombé sur un article là, ce matin.
Écoute, ben là, il est en une du Journal de Québec. Dans le fond, l'offre qui a été refusée par le syndicat des cols bleus, ça ferait en sorte que au top de l'échelle salariale, c'est des salaires de 93 500 $ qui ont été refusés. Moi, ça m'apparaît des salaires respectables. Je sais pertinemment qu'il y a des parents qui ont payé pour une saison de hockey avec leurs enfants. Prenons le hockey en exemple. Il y a plein de parents qui ne font pas ce salaire-là, qui voient leurs enfants pris en otage par des gens qui disent non à ce salaire-là. C'est rien pour aider la réputation des cols bleus. S'il y avait de l'air cocombe hier, ils ont de l'air encore plus cocombe aujourd'hui, là, parce que là, les chiffres sont sortis, puis on comprend pourquoi le syndicat des cols bleus ne voulait pas sortir les chiffres. Parce qu'ils savent que les offres sont bonnes. Puis là, on parle de Lévis. Tu sais, on dit à Lévis, les cols bleus sont mieux payés qu'à Québec, puis nous autres, on veut le même salaire au moins. Le maire Marchand, lui, ce qu'il dit, c'est ils ont plus d'argent de l'autre bord, mais il y a bien des jobs qu'ils font de l'autre bord que vous autres, vous voulez pas faire. Là, on peut pas vous donner l'argent sans vous donner les jobs. Mais là, vous autres, vous voulez pas travailler plus, vous voulez pas faire ce qu'ils font de l'autre bord, mais vous voulez le paye. Moi, ça m'apparaît sensé comme raisonnement. Au-delà de ce qu'on peut penser de Bruno Marchand dans un paquet de dossiers, en 48 heures, les agissements du syndicat des cols bleus ont fait en sorte que le vent a complètement tourné. Maintenant, ils l'ont d'en face. Ils l'ont d'en face. Vous avez refusé des 100 000 $ de salaire. Puis vous prenez les enfants en otage pour ça. Vous passez pour une maudite gang d'égoïstes puis une maudite gang de jambons.
Donc, parlez à vos représentants syndicaux, mettez-leur de la pression, puis il est encore temps, là. C'est quoi la grève? C'est aujourd'hui?
16 heures.
Ça commence à 16 heures, donc il reste encore quelques heures. Mettez de la pression, puis enlevez les loisirs puis les sports de ça. Vous allez avoir la population de votre bord, les amis.
Puis tu sais le dire aux nouvelles versus quand le courriel rentre? Moi, ça m'est arrivé hier, en début d'après-midi, juste avant de partir le show avec les filles. J'ai reçu mon courriel de Hockey Charlebourg. Puis dans le courriel de Hockey Charlebourg, ben là, ils font la liste exhaustive des arénas où il n'y a plus d'activité. Fait que là, toi, tu t'en vas dans ton calendrier de game, puis tu fais « OK, OK, OK ». Fait que si ça se règle pas, d'ici à la fin de l'année, mon gars n'a plus de pratique. Il a perdu le tiers de ses games de saison régulière, puis il reste deux games. Une à Clermont, puis une à Boischatel en fin de semaine.
Est-ce que tu leur en as parlé à tes enfants de ça?
Ben, c'est une drôle d'ironie parce que mon grand, dans son cours d'histoire, apprend les débuts du syndicalisme.
En quelle année?
C'est au milieu des années 1800.
Non. Quoi? Lui?
Ah, il est en cinquième année.
Mais tu parles du mouvement des États-Unis.
Je parle du syndicalisme qui s'est installé dans les usines avec les ouvriers qui étaient dans des conditions abominables. C'est ça. Fait que là, t'expliques ça. Puis en parallèle, tu dis, ben aujourd'hui, on comprend que les ouvriers, ils se tuent plus à l'ouvrage. Là. Les conditions ont changé, mais le droit de grève est resté. Puis ben le syndicat d'École bleue a décidé qu'il faisait la grève parce qu'il pensait qu'il gagnait pas assez d'argent. Et je pourrais rajouter à mes enfants l'information qu'on apprend aujourd'hui, qu'ils ont refusé des salaires quand même assez respectables.
Oui, puis je veux dire, il y a des gars qui m'écrivent actuellement, là, un de mes chums d'enfance qui est sur ma page Facebook, puis il essaie de se défendre parce que là, lui, il vient de voir justement l'article en question oui. que tu nous parles. Puis là, il dit ben moi, j'aimerais réagir, je suis loin de gagner ça. Je vais aller sur son message. Il dit même en faisant une tonne de temps supplémentaire, je suis loin du 77 000 qu'on parle dans cet article malhonnête. On a toujours été ouvert à la négociation depuis le début, étant aussi longtemps que ça négociait. On ne voyait pas la nécessité d'aller en grève. Ce n'est quand même pas nous qui allons déposer une offre finale en menottant l'école bleue à des moyens de pression sans aucune importance à cause des services essentiels. La ville attendait ce moment pour gagner l'appui du citoyen et garrocher des chiffres pour nous faire passer pour des sans-cœurs. Pat, c'est à toi que je m'adresse parce que je sais que tu es un auditeur. Va voir ton représentant syndical et dis-lui qu'on doit rouvrir les arénas et on doit rouvrir les loisirs.
Et l'article n'est pas malhonnête, je veux dire, c'est factuel. L'école bleue ont refusé des salaires annuels de 93 500 par année au sommet de l'échelle dans 6 ans et ont décidé de déclencher une grève générale illimitée. C'est des augmentations de 21,5% qui font en sorte que dans 6 ans, les salaires qui ont été refusés factuellement sont de 93 500$. Il n'y a pas de malhonnêteté là-dedans. Il y a des faits exposés par une journaliste. Des faits qui n'ont pas voulu, que le syndicat d'École bleue n'a pas voulu corroborer et n'a pas voulu partager. Dans ce temps-là, les journalistes s'y creusent puis ils trouvent.
Voilà.
Ils ont trouvé les chiffres. Bravo. Voilà. Bravo à Stéphanie Martin du Journal de Québec.
Puis on était gentils, on n'a même pas parlé du fonds de pension en plus avec ce salaire-là.
Ouais. Puis les heures supplémentaires, puis tout ça, là, parce que ça fait exception de tout ça, là. Ouais. On parle juste de salaire.
Effectivement. Non, c'est incroyable. C'est des bonnes conditions. Puis tu sais, quand on parle de ça, c'est pas de la jalousie, les amis. Là. Moi, je suis bien content que vous puissiez faire cet argent-là, puis vous dépenser dans la ville aussi et tout ça, mais vous n'aurez jamais l'appui de la population si vous touchez aux enfants.
Ton ami a raison sur un point. Il passe pour une belle gang de caves. Ça, là-dessus, il a raison.
Est-ce que ce soir, à 20h, on a mis notre pays en jeu?
Oui.
On peut-tu le faire?
Ben, écoute.
On dit à Trump, si on gagne, tu nous crisses la paix avec le 51e État, puis tu nous aides à protéger nos frontières.
Ah, oh, ça serait imbécile faire de la politique de même, là, pas parler de sport, mais là,
le pire, c'est qu'il mordrait probablement. Mais
oui, pourquoi? Mais parce que j'ai dit, c'est imbécile. Fait que c'est sûr qu'il va mordre.
Moi, ça, c'est mon côté fataliste. J'ai pas suffisamment confiance en Team Canada pour jouer notre avenir politique dans une game de hockey.
Puis
ce
même
soir.
Si t'avais confiance, j'espère que tu irais pas là.
Ah, être confiant, là, faudrait y aller. Là. Oh, hey, c'est assez le niaisage. Là. Si Trump est prêt à marchander puis qu'on a des très fortes probabilités de l'emporter, moi, je pense qu'il faudrait l'essayer. Absolument.
Denis Gravel.
Ah oui.
T'as déjà entendu parler de la ministre fédérale du patrimoine, Pascal Saint-Onge?
Oui.
Elle a travaillé pendant des mois et des mois et des mois et des mois avec un comité pour penser à un plan de refonte complète du mode de financement de la Société Radio-Canada. Ils sont vraiment dans la misère là, quand tu écoutes la fin de leurs émissions. Là,
ah oui,
les 800 personnes qui ont travaillé pour cette demi-heure-là ou pour cette heure-là, c'est toutes des gens qui sont dans la misère avec de très piètres conditions.
Tu sais, à la radio de Radio-Canada, quand une émission se termine à 16h, il faut qu'il termine à 15h50 parce que le temps de remercier toute l'équipe, ça prend 10 minutes.
Exact.
Ça te prend-tu 10 minutes, toi, de dire merci à ton équipe?
C'est quand il me dit merci, puis c'est moi son équipe.
J'ai tout le temps merci, Pascal.
Tu ben dis, oui.
C'est bye, pas long, Pascal, hein? Ou bye tout le monde.
Merci, Pascal. Bye, Pascal.
Comment nous coûte Radio-Canada par habitant? Ça, ça inclut vos enfants, soit dit en passant, qui ne paient pas encore d'impôts ou les personnes qui ne gagnent pas assez cher pour payer de l'impôt. Comment ça coûte par habitant, Radio-Canada?
Combien?
Ce serait 33 $ par habitant.
OK.
Puis.
Vous n'êtes pas choqué de ça, 33 $ par habitant, par exemple?
Coûte moins cher que Netflix, mais je m'en sers pas mal moins.
Mais annuel, non, au contraire, Denis, tu t'en sers à chaque jour avec tes nouvelles.
Moi, j'aimerais payer beaucoup moins que 33 $. J'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui se perd, mais c'est pas moi qui travaille à cette fameuse refonte-là.
C'est un réseau de nouvelles, Denis. Là. Radio-Canada va alimenter TVA ou Québécois qui vont tous s'interalimenter, vont tous se pousser.
Est-ce que là,
si tu l'as pas,
c'est encore la priorité.
Les autres se perfectionnent.
C'est encore
pas.
La priorité, le réseau de nouvelles. Ben, c'est les shows de variété puis les shows
là, on peut se questionner
dans
sur
direct
ça.
De l'univers. Voilà. C'est super bon en direct de l'univers, mais c'est-tu leur mandat puis c'est-tu leur job? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie du budget qui va dans la variété pas mal plus que dans la qualité de l'information.
Est-ce que là, tu peux te questionner.
Excusez-moi. Est-ce qu'elle a, avec son comité, trouvé des endroits où on dépensait de l'argent qui ne correspondait pas, à, comme tu dis, au mandat de Radio-Canada? Est-ce qu'elle a, avec son comité spécial, où ils ont travaillé extrêmement fort, ils ont bu du café, les repas étaient fournis, est-ce qu'elle a trouvé un endroit où ils pouvaient retirer de l'argent?
Donne-moi 5 minutes puis la grille horaire, puis j'aurai même pas le temps de finir un café. M'a t'en trouvé 2-3 spots assez faciles, là. On commence-tu le dimanche soir?
Ouais. Non, ils ont pas fait ça. Non. Ils ont regardé puis ils ont dit, coudon, tu sais, le service public est un peu politisé, donc on va le dépolitiser. Ça va être une formule qui va permettre aussi un financement plus stable et prévisible à long terme qui lui permette de se distancer du politique. Et là, je me pose des questions, mais de quoi elle parle? Ils veulent retirer les publicités. Tu sais, les entreprises privées qui disent « Hey, nous, pendant le bulletin de nouvelles, on aimerait ça se faire voir parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le bulletin de nouvelles. Mm-hmm. » Fait qu'on va payer pour pouvoir être vu là, puis cet argent-là va à Radio-Canada pour payer les employés de Radio-Canada.
C'est parce que je pense pas que si Calinette se paye un spot pendant un bulletin de nouvelles, ils prennent le contrôle de l'information du bulletin de nouvelles. C'est un raisonnement qui est complètement ridicule. Moi, j'irais plus dans l'autre sens. Je garderais des émissions phares sur l'actualité, l'information et le culturel, la semaine verte, ce genre de choses-là, puis ainsi de suite. Puis le reste de Radio-Canada, dans la donne actuelle, avec les services de streaming, puis tout ça, ciao, bye! Puis à partir de ce moment-là, ben si notre 33$ sert à financer un réseau d'information avec un grand I qui est capable de se placer au-dessus de la mêlée, puis de faire pas mal plus d'information que d'entertainment, moi, je suis prêt à faire mon petit bout là-dedans de contribuable.
Donc là, si elle enlève l'argent des entreprises privées qui veulent placer à Radio-Canada, si elle retire le droit à des partis politiques, exemple, de s'acheter de la publicité sur le bulletin de Radio-Canada, qui va devoir casquer le manque à gagner?
Ah, c'est nous autres.
Ben, c'est ça qu'elle a trouvé!
Ouais, c'est une bonne idée, hein? Nous faire payer plus cher pour Radio-Canada, c'est... ouais.
C'est ça, sa recommandation.
Très 2025.
Fait que quand on parle de dépolitiser, c'est qu'on n'aura pas besoin de demander à Pierre Poilievre, exemple, un peu plus d'argent pour Radio-Canada, alors que Pierre Poilievre, qu'est-ce qu'il avait dit pour Radio-Canada? Ben, ils vont devoir s'arranger avec l'argent qu'on leur donne, on n'en en donnera pas plus.
Ouais.
Et ça, ça fait beaucoup de peine aux libéraux. Puis elle a décidé de se faire un comité spécial. Et selon la ministre, la fin des publicités lors des émissions d'information va permettre d'apporter, Denis, de l'oxygène pour le secteur privé pour qui ces revenus publicitaires-là deviennent accessibles. Dans le document, elle affirme que la dépendance de la société d'État aux publicités risque de compromettre ses objectifs de service public en favorisant le contenu générateur de revenus au détriment des avantages sociaux, culturels et démocratiques voulus dans son mandat.
Fait qu'on va continuer de cacher in la pub de toutes les émissions à gogo de Radio-Canada, de faire une concurrence un peu déloyale au réseau privé parce qu'on a accès à des subventions qu'eux autres n'ont pas accès. Puis par-dessus tout ça, nous autres, on va nous demander de payer plus cher pour le financement d'un réseau qu'on utilise de moins en moins. Il y a de quoi là-dedans qui marche pas, là?
Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est se sauver le cul, là. Tous ceux qui travaillent pour Radio-Canada à travers le Canada vont voter pour qui aux prochaines élections? Avec ce qu'elle veut mettre en place. Ben, là.
Ils vont voter pour les libéraux.
Ils vont voter pour les libéraux. Ben oui. Mais elle dit qu'elle veut dépolitiser tout ça, le service public. C'est de la grosse hypocrisie qui va faire en sorte que les libéraux vont encore piger dans les poches des Canadiens pour pouvoir s'auto-promouvoir en haut.
Tu sais, moi, les grands débats de valeurs éthiques sur l'argent et l'information, il me semble que c'est des débats qu'on peut faire quand c'est tranquille, là, quand on n'a pas de vrais problèmes à régler. Tu sais, quand c'est... Une journée tranquille, dans une semaine tranquille, dans un mois tranquille, avec tout ce qui se passe dans le monde présentement. On peut-tu focusser, s'il vous plaît, messieurs, dames?
On a même confié une mission à la Société d'État, celui de jouer un rôle de leader en innovation technologique, un secteur qui présentement est laissé entre les mains des oligarques américains.
Bon.
Méchant orange, l'autre bord. Elle présente la SRC comme un élément vital pour la reconnaissance de la souveraineté canadienne et une différenciation culturelle. Elle va plus loin. Pascal Saint-Onge recommande de reconnaître dans la loi CBC Radio-Canada comme un outil pour lutter contre la désinformation dans la foulée de la commission Hogue sur l'ingérence étrangère.
Il y a quand même un point, les gars, là, dans lequel il faut que vous ayez une nuance, là, c'est que vous avez quand même un contrôle sur cette information-là parce que vous la payez, parce qu'elle appartient au pays. Puis au moment où il y a moins de moyens, puis là, c'est correct, on peut voir est-ce que c'est une somme de 20$, une somme de 30$, mais au moment où vous amputez ça, le problème, c'est que je vais vous entendre dans 5 ans dire, mais là, on n'a plus d'informations neutres, on n'a plus... Puis pendant qu'on avait de l'investissement puis qu'on avait une possibilité d'en faire, puis qu'on a coupé là-dedans, puis qu'on n'en a pas pris soin, puis que c'est là, à ce moment-ci, maintenant, qu'on devrait critiquer puis poser des questions, on va jouer avec cette démocratie-là, puis ce qui nous appartient comme étant justement un réseau d'informations qui devrait être valorisé, revu, assuré. assurément, peut-être peaufiné, peut-être retravaillé, mais pas à cracher dessus pour que le monde commence à l'haïr.
Mais ça, tout le monde avait compris.
Ben, pas tant. Ben, parce que moi, j'entends en ce moment.
Les gens comprennent. C'est la stratégie derrière des libéraux pour se mettre encore une fois de côté.
Oui, mais il faut faire attention.
Radio-Canada.
Il faut faire attention par rapport à la manière dont on le dit. Parce que là,
ce qui
vient me chercher un peu, c'est de voir des textos rentrer, des trucs comme ça. Fuck Radio-Canada, de ci, de ça. Nous, c'est même pas un compétiteur par rapport à la pub. Puis on. Vraiment, là, faut jamais que ça rentre la publicité dans ce réseau-là. Là.
Ben, y en a déjà, télé.
Ils en font en partie. Sauf que c'est vrai que c'est pas leur cheval de bataille.
C'est parce
qu'il faut pas que ça le devienne.
C'est parce qu'ils veulent porter les deux chapeaux en même temps. Dans les 10 dernières années, à Radio-Canada, on a coupé des postes de reporters internationaux un peu partout sur la planète. Pendant ce temps-là, y a-tu moins de chanteurs à l'émission du samedi soir de France Beaudoin?
Ils
sont encore
pertinent.
5 à chanter trop fort. Là,
puis
oui.
Là, c'est là où je trouve ça pertinent. On peut se questionner, on peut se dire, puis pour le journalisme international, c'est une décrépitude totale.
Avant de venir chercher plus d'argent dans nos poches à nous autres, les contribuables, pour la qualité de leur information, ils ont du ménage à faire, un ménage qui s'obstine à
ne pas
faire.
Pour moi, ça, c'est une critique intéressante. Mais de juste aller parler de l'argent, puis ils font pas leur travail, puis ci, puis ça, ça vient me chercher parce que... Je parle en général, il y en a qui l'écrivent, il y en a qui le disent. Puis ça, c'est ça, je vais me battre. C'est pas physiquement, là, pas comme au hockey.
J'espère qu'ils travaillent. Ils sont 26, une émission de radio comme la nôtre.
Ça, on peut se questionner.
Elle nous a dit tantôt qu'elle a découvert qu'elle était aux hommes quand elle a vu Brad Pitt embrasser la personne qu'il avait prise en otage.
C'est dans quoi, ça?
Dans
après
3.
L'avoir battu.
OK.
Ah, oh, j'ai dit que c'était...
Ils se sont embrassés. Oh. C'est là qu'elle a découvert qu'elle était aux hommes.
Bon, ouais, c'est...
Moi, ça explique ça. Tout.
OK. C'est-tu à Radio-Canada que t'as écouté ce film-là?
C'est sûr que je vous envoie au cachot. Puis c'est une façon gentille de le dire.
Ouais. Mais actuellement, c'est 33$ là, que tout le monde, incluant tes futurs enfants, Pascal, envoie à Radio-Canada.
Ben oui, je les paierais pour eux. Là.
Ouais. Mais de voir qu'on retire l'entreprise privée qui casquait un peu le manque à gagner pour Radio-Canada. Puis là, on dit, ben écoute, ce sera à nous, le gouvernement, de casquer pour le manque à gagner des entreprises privées qui auront pu à placer de la publicité dans le service des nouvelles, exemple. Moi, je trouve ça particulier.
Tu viens de me faire
stratégie.
Tu viens de me faire allumer sur quelque chose. Là. J'ai erré tantôt. Là. J'ai fait de la désinformation. Le forfait familial de Netflix est pas mal moins cher que ce qu'on demande pour Radio-Canada. Tu viens de me faire allumer qu'on est 4 chez nous. C'est 4 fois 33. Là.
C'est vrai?
Oui.
Oh, là.
Ben là, forfait familial, je suis capable,
sérieux,
de brancher Audrey Pinchot sur mon familial
fini,
Netflix.
C'est fini, 34, là, c'est fini ton passage.
À 25$ par mois.
D'habitude, je garderais 3 heures de plus. Là, je pense que c'est fini.
T'as-tu têté ton Netflix?
Hein, oui.
Ah oui?
J'y ai offert gracieusement.
Oh, c'est
mais toi, t'as souvent été responsable de tes affaires, les applications. Puis je me souviens que dans ton ancienne vie radio, il y a plein de gens qui avaient tes codes aussi.
Oui.
T'étais comme la personne qui donnait ses codes à tout le monde.
Ben,
c'est
écoute,
généreux.
C'est parce qu'on a besoin, veut pas, pour suivre les affaires. Fait que ouais, on fait de la colocation. Vois-tu, mon compte Crave, c'est pas mon compte Crave, c'est le compte Crave à Véro.
OK, vous le partagez.
Ouais. Interchange. Tu vois,
elle a mon
généreux.
Disney+. J'ai son Crave. On fait du.
C'est un peu crosseur, mais c'est des entreprises privées qui te crossent aussi.
Ben, tu sais que t'as un nombre de terminaux maximum. Fait que moi, je suis dans les règles, là, dans le fond. Oui. Avec Spotify et tout ça, mais j'ai une famille élargie.
Faut-tu que vous appeliez pour vous dire, là, c'est moi à soir?
Non, pas besoin.
C'est jamais arrivé?
Pas encore.
Que vous étiez tous sur la même affaire, non?
Non, le Spotify, des fois, ça arrive.
Ça bug.
Mais c'est pas long qu'on s'en place.
En passant, merci à l'auditeur qui rappelle. Oui, il l'a dit.
Ah oui?
Merci à l'auditeur qui rappelle que... Moi, je suis correct, j'ai trouvé ma libido près de Brad Pitt, mais on se souvient qu'Audrey, c'était avec Dobby, là.
Ouais, c'est sûr qu'entre les deux...
Dobby,
c'est un elfe...
De maison dans Harry Potter.
Chétif et laid dans les films d'Harry Potter, ouais.
Avec même pas de sexualité, je pense.
Elle avait un gros toutou de Dobby, puis elle lui faisait des choses.
C'était une statue, c'était même pas doux, là.
C'était sa première poupée gonflable.
C'est pas une farce.
Non. On va laisser Tichum dans l'ignorance de tout ça.
Oui. Il écoute pas beaucoup l'émission l'après-midi, non. Non, il l'a dit. Hein. Elle parle trop.
Denis Gravel, on te reparle tantôt à 14h.
Salut.
Salut. Bye-bye, puis bonne game à soir.
Yes, sir.
Oh, c'est lui, Dobby?
Ouais, c'est ça, Dobby. Elle se pratiquait à frencher sur son...
Je sais pas ce qui est le plus toxique, mais vous travaillez avec des femmes toxiques.
Clairement.
Ben écoute, on peut pas être 25 d'une émission de radio, fait qu'on prend ceux qui restent.
Hein? Exact.
C'est
exact.
Ça qui arrive.
Midi 35, on vient.
Dans le retour. Ah,
12h42. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi est-ce qu'on a Pour Some Sugar on Me comme bed? C'est associé à notre émission. C'est où la plainte que je peux faire? Il nous sexualise.
Parfait. Eh oui.
Tommy!
bon, bon, le trafic, c'est-tu réglé sur la rive sud? Tiens, mon chum Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile, est là. Comment ça va, mon chum Matt?
Hey, ça va super bien. Encore une fois, bon midi à tous les auditeurs et non seulement les animateurs.
Ouais, très content de jaser. Hey, je parlais la semaine passée ou l'autre semaine d'avant avec un chroniqueur automobile, puis on parlait des fameuses promesses des véhicules intelligents là, qui communiquaient les uns avec les autres, qui allaient nous garantir que dans un futur rapproché, dans le trafic, les véhicules allaient se parler l'un et l'autre, puis allaient s'emboîter les uns dans les autres, ce qui ferait en sorte que le trafic disparaîtrait. C'est pas aujourd'hui qu'on va avoir ça. Hein?
Effectivement, ça fait longtemps qu'on parle de la voiture à la voiture, d'autant plus avec la connectivité d'aujourd'hui, avec les véhicules qui communiquent avec l'Internet. Non seulement, aussi une nouvelle qui m'a quand même surpris dernièrement avec Apple, hein, qui dit que maintenant, peu importe qu'on ait le signal cellulaire ou non, les textos vont quand même être capables de s'échanger avec tout ce qui est Starlink. Uh-huh. Donc, imagine ce que ça peut faire pour l'automobile aussi, donc d'être n'importe où sur la planète en pouvant échanger de l'information tant par rapport à ton statut automobile ou encore même en voyant certaines plaques de glace ou encore du trafic. Est-ce qu'on est à la hauteur d'éliminer le trafic? Marceau, peut-être pas. Mais il y a certains systèmes de multimédia de différents manufacturiers comme, voire même Toyota dernièrement, un genre de système de Google intégré qui était capable de voir lors de nos essais qu'on avait fait pas mal de tests de traction et qu'il y avait une plaque de glace sur une rue. Et devine quoi, ensuite il était partagé à l'intérieur du système multimédia pour dire « faites attention, ça va être glissant à cet endroit-là ». Et cette connectivité-là, elle est partagée dans le système. Donc, il y a des avancements, mais à la hauteur de ce que tu t'attends pour sauver du temps quand tu es sur la rive sud, pour traverser sur la rive nord, ça n'arrivera pas tout de suite. Là.
Non, mais parce que tu sais que les véhicules communiquent tout ensemble pour que tout le monde puisse adapter sa vitesse, exemple, dans le trafic, que tu n'aies plus besoin, parce que on va se le dire, là, puis des fois, j'aime pas ça le rappeler, parce que Pascal va dire « il y a des gens qui font ça, on ne veut pas faire peur à Pascal », mais il y a énormément de gens qui sont sur leur cellulaire dans le trafic, parce que le véhicule avance pas.
Ouais.
Fait que là, le 2-3 secondes qu'ils se rendent compte que le trafic est reparti, ben la personne n'a pas avancé. Ça fait en sorte que les autres en arrière sont toutes retardées. Même affaire pour les filles qui se maquillent. T'sais. Il y a des filles, ce matin encore, des filles qui se maquillaient dans l'auto, puis je les salue, là, puis je trouve ça bien correct. Je suis bien content là, que vous soyez super belles et super coquettes, mais ça a le même effet un peu sur le trafic que ceux qui sont sur leur cellulaire en train de texter.
Puis je vois pas comment ils réussissent à mettre du mascara, honnêtement.
Mais ce qui est drôle, c'est que...
La perte de temps, elle est quand même énorme, et tu as raison, parce qu'on la multiplie. Mais savais-tu que les voitures coréennes qui ont été pas mal dans les premières, si je me trompe, lorsque le véhicule en avant de toi commence à bouger, et s'il constate que toi, tu n'as pas bougé ou réagi en accélérant, il va t'envoyer un signal en te disant « le véhicule en avant s'est déplacé ». Donc ça, on le voit dans plein de voitures présentement. C'est au même titre que t'as oublié quelque chose sur la banquette en arrière. Les véhicules ainsi que l'automatisation, tout ce qui est l'intelligence artificielle aussi qui va être mélangé à la programmation, va, comment dire, combler nos grands manquements présentement. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est pas implanté dans tous les véhicules, mais c'est un nice to have. Et je dois avouer que à partir de 5 fois où ce que t'as pas bougé, il devrait envoyer un choc électrique dans le banc pour que tu te réveilles.
C'est peut-être un peu intense, mais effectivement, on comprend l'objectif que tu recherches. À un moment donné, faut s'en rendre compte qu'on est un danger là, en train de texter sur la route, puis ceux qui sont dans le trafic qui textent en disant « ouais, mais mon char avance pas », ben si tout le monde pense la même affaire, puis il y a tout le temps 2-3 secondes entre chaque conducteur, ça fait une problématique. Puis tu sais, on n'en viendra jamais, Matt, puis je suis pas mal persuadé, là, parce que je regarde un peu l'aviation, comment ça se passe. L'aviation, c'est hyper technologique. On n'en viendra jamais à ne plus avoir de pouvoir sur notre véhicule. Tu sais, les véhicules qui vont se promener de A à Z là, au centre-ville de Québec, exemple, qui vont pouvoir aller partout, puis il n'y aura pas de chauffeur. Je comprends que ça peut fonctionner à certains autres endroits, mais regarde ce qui s'est passé à Pearson, à Toronto. Là. Je parlais avec un de mes collègues, un de mes chums qui travaille pour Air Canada, puis il me disait qu'il aurait pu, le pilote peut atterrir sur le pilote automatique. Sauf qu'à un moment donné, les conditions sont, ils changent tellement d'un bord puis de l'autre que le pilote automatique dit, moi là, je ne suis plus capable, reprends le pouvoir, puis c'est toi qui dois démontrer au vent que c'est toi qui mène. Fait que c'est le pilote automatique qui débarque, puis c'est le pilote qui prend contrôle de son avion pour atterrir. Tu sais, on n'en viendra jamais à une conduite autonome là, à 150%. Là.
Non, ça c'est vrai. Il y a trop de facteurs qui sont très imprévisibles au travers de ça. Puis tu sais, je vais te donner des exemples, Marceau. La météo qu'on a connue dernièrement, tout ce qui est barrière de neige, tout ce qui est blizzard, non seulement l'accumulation, mais tu sais, à l'œil nu, là, nous, là, en tant qu'humains, lorsque tu arrives avec ton véhicule puis que tu vois un remblai de neige, ben je pense que, en tout cas, je compte sur la majorité des gens qui sont capables de faire la différence entre un remblai de neige qui est juste une neige fofolle tombée, alors que ça pourrait être un remblai de neige très glacé qui a été poussé par de la machinerie. Et celui-là, en passant, on le constate hein, quand on vient pour souffler la neige avec notre bonne souffleuse, elle est beaucoup plus lourde, beaucoup plus consistante et non seulement beaucoup plus difficile aussi à traverser, voire même peut-être impossible. Donc, à quelle manière que l'intelligence artificielle ou encore l'automatisme va faire la différence dans ces conditions-là, je ne le sais pas. Mais c'est là qu'on a besoin encore de l'humain. On n'est pas prêt à se lancer dans de l'autonomie pure.
Mais est-ce que vous êtes d'accord?
Oui.
Tu dis, on n'est pas prêt. Mais on veut-tu être prêt? Je donne un exemple. Plus on est rendu habitué aux caméras de recul, plus on est habitué à se faire dire qu'il y a quelqu'un dans notre angle mort, moins on est autonome là-dessus, moins on a les réflexes développés, moins quand vient le temps, on fait notre job de conducteur. En aviation, même chose. J'ai pas envie qu'on soit rendu là. Puis, tout le monde dit, de plus en plus, les avions se pilotent tout seuls, avec de grosses parenthèses. J'ai pas envie qu'on soit là. Avec des incidents, des accidents, tout ce qu'on a vu, encore une fois, en Arizona, il y a deux avions qui ont fait un face-à-face. J'ai pas envie que la tour de contrôle ou l'avion se conduise tout seul puis qu'on perde nos réflexes quand vient le temps de les utiliser, qu'on les ait pas assez pratiqués. Tu sais, il faut que ça soit facile, fluide, qu'on n'y réfléchisse plus, là.
Oui, mais tu sais, oubliez pas, quand on a commencé nos chroniques automobiles ensemble, bon, il y a de ça plusieurs années, il n'y en avait pas d'automatisation dans les véhicules. Écoute, on était dans des années où est-ce que les contrôles de stabilité, les modes de conduite s'implantaient. Là, plus on avançait au travers du temps, plus on a commencé à avoir des avertissements. Voire même les véhicules aujourd'hui, là, certains véhicules, comme le véhicule que je conduis cette semaine, fait une protection 360 degrés, va non seulement m'avertir aussi lorsque je décolle à la lumière verte, hein, quand mon droit il est là, si jamais il y a un véhicule qui s'en vient de côté à pleine vitesse et qui n'a pas vu sa lumière rouge à lui, le véhicule m'avertit. Il y a plein d'éléments de sécurité qui deviennent même en assistance. Par exemple, lorsque je quitte mon véhicule, si jamais il voit qu'un autre véhicule s'en vient dans l'angle mort, il va tout simplement verrouiller ma portière pour que je sorte. Est-ce qu'on en perd notre vigilance? Je vous dirais qu'on est peut-être dans une fixation où est-ce qu'on veut absolument que personne se blesse ou encore décède, ce que je comprends. Mais est-ce qu'on perd un peu le plaisir de conduite automobile, l'autonomie, voire même notre vigilance en tant qu'humain? C'est oui. Mais est-ce que l'ordinateur peut réagir plus rapidement qu'un humain à une situation dont il peut contrôler? La réponse, c'est oui. Cependant, une machine, c'est comme un humain, ça doit apprendre. Et on a encore un problème de confiance envers la machine, ce qui est totalement raisonnable. Parce que même l'humain fait encore face à des imprévus aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est très philosophique là, ce que je dis, mais on espère que les auditeurs se retrouvent.
Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, je reprends mon idée là, quand je jasais avec mon chum qui est pilote pour Air Canada. Tu sais, lui dit, dans des conditions où le vent change, un cisaillement de vent, exemple, là, le pilote automatique débarque sur l'avion quand tu es en train d'atterrir. Fait que c'est toi qui dois reprendre le pouvoir de l'avion. Parce que le pilote automatique dit « Moi, je suis plus capable, fait que contrôle-la. » Fait que j'imagine que ça va être la même affaire pour ce qui est des véhicules. Parce qu'en ligne droite ou dans des petits quartiers, comme on peut voir aux États-Unis, là, des véhicules autonomes à 100%, ça fonctionne bien à une certaine vitesse. Là. Ils vont pas à 150 km/h, ces véhicules-là. Là. Ça fonctionne bien à une certaine vitesse. Mais ici, au Québec, avec toute la slotch, la neige qui s'accumule sur les capteurs et tout ça, on verra pas ça demain, là.
Excellent enjeu. Puis ce que tu abordes présentement, là, les capteurs, la météo, le grésil, la glace qu'il s'accumule sur ceux-là, c'est la prochaine vidéo courte qu'on avait prévu sortir. Où est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ben, le véhicule a besoin de voir et aujourd'hui, il nous donne un avertissement s'il n'est plus capable de voir. Si son avertisseur de collision n'est plus fonctionnel, le véhicule va nous le dire. Et avant, on avait juste un indicateur que ça marche pas. On n'avait pas nécessairement de détails, mais dans les derniers véhicules qu'on a essayé dernièrement, dont ceux-là de Mazda, ben ça nous dit que le capteur avant, à cause de la météo, est non fonctionnel. S'il vous plaît, dégagez le capteur. Donc, l'ordinateur est quand même capable de non seulement d'effectuer un diagnostic, s'assurer que ça marche pour son autonomie, mais non seulement aussi te donner la solution pour le réparer très temporairement ou encore te dire exactement quel matériel est défaillant.
Tu sais, j'ai Mathieu numéro 2 là, qui m'écrit par texto. Pascal lui a répondu. Il dit, c'est rendu que je suis tellement lâche avec la conduite, avec l'aide à la conduite, que je fais même plus mon angle mort depuis que j'ai mon avertissement d'angle mort sur mon véhicule.
J'ai répondu que c'était pas bon, mais honnête.
Ben écoute, je refais un parallèle. Le CX-90 que je conduis cette semaine, dans le panneau d'instruments au niveau des afficheurs vraiment central au niveau du conducteur, est capable de me montrer à quel endroit il y a un véhicule qui se cache dans mon angle mort et non seulement un peu la distance de celui-ci et voir même s'il va me dépasser ou encore si vraiment il est en décélération. Et si jamais il y a 4 véhicules autour de moi, devinez quoi, je vois 4 petits carrés qui démontre les véhicules qui sont autour de moi. Est-ce que ça m'invite à ne plus regarder dans mon angle mort? Probablement. Est-ce que c'est quand même fiable, ce système-là aussi? Donc, je suis dans un paradoxe. Je dois cependant vous dire que si vous tenez à votre sécurité, prenez quand même le temps de faire une double vérification, car on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise analyse d'un système aussi ou d'une défaillance d'une petite lumière comme ça. La journée que sa lumière va brûler dans le miroir, il va faire « Ah, OK, ben, il n'y a personne. » Puis en réalité, ben, la lumière est brûlée. Là, il va avoir un coucou qu'il y a quelqu'un. Donc, il faut faire quand même attention à peut-être ce qui est moins prévisible aussi.
Les amateurs de F-150 vont être un peu déçus parce que la sortie du prochain Ford F-150 semble être retardée.
Effectivement, on devait avoir un nouveau F-150 du côté de l'année 2027. Il y en a qui vont me dire « Ah, mais là, c'est loin. » Mais n'oubliez pas souvent que pour un modèle 2027, c'est annoncé en 2026, donc on aurait dû avoir des nouvelles au courant de l'année prochaine, mais on retarderait d'une année pour sa prochaine mouture, selon ce que les dirigeants de Ford nous ont dit. Il faut dire qu'on se dirige vers la 15e génération, c'est un véhicule qui a énormément d'histoire. Il faut dire que ça fait quand même un petit bout de temps là, que le produit avait quand même reçu une certaine mouture complète. Faut pas oublier qu'en 2024, on a quand même retouché là, d'importantes mises à niveau là, qui restent quand même une bonne impression là, du côté du F-150. L'autre chose aussi qui est extrêmement importante puis que ça joue là-dessus, c'est la politique. Hein, la guerre économique dans laquelle on est en train de brasser tout ça. N'oublions pas que le président américain il avait déclaré qu'il y avait des tarifs de 25% sur l'aluminium et non seulement de l'acier. Et question, en quoi donc se vante Ford que le F-150 est conçu en, justement, grade d'aluminium, on dit un grade militaire, mais je vais être franc avec vous, là, c'est plus le grade ouvre-boîte, tant qu'à moi, là, si jamais vous avez un impact dans le côté. Il y a quand même une raison aussi qui est autre, qui est possible, ben, tout ce qui est l'électrification, hein, on le sait, le Ford F-150 Lightning a quand même connu du succès.
Ouais.
Faut pas oublier que faut qu'on ait beaucoup, beaucoup d'argent dans la caisse pour amener une nouvelle mouture de cette version-là. Et c'est des plateformes qui coûtent des milliards de dollars à développer. Donc, on risque quand même d'avoir des nouvelles bientôt, mais pour l'instant, tout ce qui est relié à un objectif clair au niveau du manufacturier, soit il faut réduire les coûts, il faut améliorer la qualité. Hey, en passant, la qualité des véhicules aujourd'hui, là, je vous le dis, pour certains manufacturiers, on a reculé et là, on commence à reculer trop. Donc, n'oublions pas aussi que les grands manufacturiers de camions, ils font des camions depuis des années, voire même des décennies. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils ont de la misère à faire une camionnette qui est fiable, qui va tenir au travers du temps, qui ne pèlera pas en peinture et qui surtout va être capable de ne pas sauter aucune transmission, aucune motorisation? Ça commence à avoir beaucoup d'importance quand le client commence à mettre beaucoup d'attentes là, par rapport à ceci. Donc, on a hâte de voir la direction, mais une chose est sûre, il faut avoir les reins solides pour développer un nouveau véhicule comme ça, d'autant plus que c'est le véhicule le plus vendu souvent en Amérique du Nord. Bien entendu, du côté des camionnettes, c'est un véhicule fort de Ford.
On a-tu encore à Québec la seule station d'hydrogène à l'est de Montréal?
Et effectivement, je te dirais que nous, du côté de Québec, et c'est très particulier, hein, c'est le genre de pompe que tu espères que ça marche quand ça arrive sur le boulevard Amel, effectivement, le proche de la SAC. Et
on a quelqu'un en commun, toi et moi, qu'on connaît bien, qui a eu un véhicule à hydrogène. Il a dû descendre le prix comme pas possible. Ça a pris des mois et des mois à revendre. Y a-t-il encore des entreprises de voitures qui croient en l'hydrogène?
Bien, il y a encore effectivement des entreprises comme Toyota ne lâche pas le morceau présentement. BMW aussi y croit encore. Et si je ne me trompe pas, Honda aussi encore y croit de leur côté. Et qu'est-ce qui arrive avec l'hydrogène? Bien, c'est qu'on continue le développement. Toyota, d'ailleurs, a dévoilé la troisième génération de sa technologie de pile à combustible pour ça. De leur côté, qu'est-ce qu'ils disent? Bien, c'est sûr qu'ils veulent toujours faire connaître le plus possible l'hydrogène pour démontrer que c'est une alternative très intéressante et verte. Mais non seulement on commence à parler de plus en plus que ça s'adresse peut-être à des véhicules lourds, les camionnettes légères, et plusieurs applications qui pourraient être un peu plus de type commercial. C'est lors du salon, le H2 et FC Expo qui est tenu au Japon, que le constructeur a fait l'annonce. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un meilleur rendement énergétique qui serait amélioré de 20%. Fait qu'automatiquement, meilleure autonomie un peu si on veut. Mais non seulement aussi, on cherche énormément à réduire les coûts. Parce que tu l'as dit tantôt en introduction, le véhicule, présentement, la Toyota Mirai, elle était extrêmement chère, elle l'est encore chère. Et la problématique, c'est que si tu penses garder ce véhicule-là à court terme ou faire une location, ben tu te ramasses avec un véhicule qui ne vaut pas rien. Pourquoi? Avec une seule station de distribution du côté de Québec, tu viens d'éliminer un paquet d'acheteurs potentiels. Puis c'est pas que le véhicule est mauvais, au contraire, le véhicule est très intéressant et solide, démontre quand même une fiabilité intéressante. Mais avec ces composantes-là, l'hydrogène fait peur à n'importe quelle personne. D'où pourquoi notre ami en commun, je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, mais quand j'en regardais ça sur Marketplace, ça me fendait le cœur de voir le prix. Là, ouais.
Il m'a dit qu'il l'a vendu, mais il était content de l'avoir vendu.
Il y a quelqu'un qui dit « Mon père a modifié son pick-up, il roule au propane et c'est très économique. Oui. Ça prend une formation pour le faire.
Oh, » ouais.
Qu'est-ce que c'est ça?
Oui, parce que tu dois trimballer tout ce qui est le côté propane, formation, non seulement les petits panneaux d'affichage, comme de quoi certains véhicules font du transport de cette matière-là et l'utilisation qui est commerciale. Donc, en gros, c'est que tu vas ajuster tout simplement. En passant, le propane est un gaz au même titre que l'essence régulière dans lequel il peut avoir une combustion pour faire fonctionner un moteur. Le meilleur exemple que je donne toujours, les gens se promènent au Costco une fois de temps en temps, voient la génératrice et se rendent compte qu'elle peut fonctionner à l'essence, mais non seulement aussi au propane. Puis en passant, le propane, ça paraît pas, mais l'efficacité, elle est quand même assez bonne. Lorsqu'on combine une mécanique régulière d'un camion à du propane, on est capable de faire une bonne économie au niveau de l'essence, surtout si on fait beaucoup de kilométrage et énormément de travail aussi. Demandez pas des chiffres précis, je les ai pas toutes, incluant aussi le coût de la transformation, c'est pas donné, mais j'entends beaucoup, beaucoup de gens qui font du commercial, du transport, de la route énormément. Tu sais, le genre de camion que tu veux garder pour 600 000 km, qui vont aller vers ces systèmes-là, parce que pour eux, l'électrique, ça fonctionne pas, le hybride, ça fonctionne pas, mais d'avoir cette mécanique-là combinée au propane va réussir justement à répondre à ce qu'ils ont besoin, c'est-à-dire une économie d'essence substantielle.
Le CX-90, moi, c'est un véhicule que j'ai dans ma ligne de mire. Là. Ça va être probablement mon prochain véhicule. Ça va être un hybride. Je vais avoir besoin de ça. Puis j'essaie de me convaincre qu'il faut que je paye le prix. Toi, tu l'as essayé cette semaine. Comment tu l'as trouvé?
Oui. Je trouve le véhicule encore excellent. Je trouve le véhicule qui se démarque côté style. Tu as vraiment une touche de luxe impressionnante du côté de Mazda. On a quand même fait un excellent bond. Et c'est-à-dire aussi qu'on a une mécanique donc qui vient combiner le tout à une batterie électrique pour qu'on soit capable de faire, encore une fois, une autonomie là, purement, sans faire fonctionner la mécanique générale d'environ, je te dirais que ça varie dans les meilleurs temps d'environ une quarantaine de kilomètres. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est que le combiné de cette motorisation-là développe 323 chevaux puis 369 livres-pieds de couple. On est capable d'avoir un véhicule qui transporte la famille et qui, en général, dans des pleines conditions froides d'hiver, comme on a connu dernièrement, tempête et tout, qui vont faire aux environs de 9 litres au 100, ce qui est un gros « wow » tant qu'à moi. OK? La seule chose, c'est que si on a l'intention de rouler en mode purement électrifié en plein milieu de l'hiver, c'est très compliqué parce que le véhicule, il est un peu capricieux quand il va commencer à faire froid. Donc, vous allez avoir un peu plus un véhicule hybride en hiver, mais c'est sûr que l'été, vous allez être capable de faire fonctionner uniquement avec son mode électrifié et aller chercher là, vos 40-42 km. Pour la famille, c'est intéressant parce que c'est un véhicule qui a un très bon gabarit, quand même capable de remorquer 3500 livres. Et je te le dis, là, le toucher, l'intérieur, voire même la petite ligne mauvette au niveau des lumières, le côté profond des peintures de Mazda, l'odeur même du véhicule sur lequel on a joué, nous amène dans un véhicule de luxe qui est beaucoup plus à caractère sportif qu'à caractère familial, comme le serait un peu plus là, la compétition là, dans des marques japonaises.
Il y a de la place pour des poches de hockey?
Il y a de la place en masse pour des poches de hockey. Tu pourrais même amener notre ami commun qui n'a plus de véhicule à hydrogène là, le temps qu'on le dépanne. Il n'y aura pas de problématique. Là. Même une bonne équipe là, de boys là, serait capable d'embarquer là, un bon trio, comme on dit à l'intérieur de ce véhicule.
Bonne équipe de boys.
Non, mais j'ai apprécié.
Qui joue au hockey.
Ouais, c'est ça. Mais j'ai apprécié, Matt, que tu dises que tu choisisses quelqu'un que je pourrais embarquer comme un ami. Mettons cet ami-là qu'on a, toi et moi, en commun, mais que tu nommes pas Pascal.
C'est ça. Puis après ça, il a continué avec une équipe de boys.
Une équipe de boys.
Je pensais qu'on était plus proches, toi et moi, Matt.
Un CX90 hybride, ça vaut combien à peu près?
C'est sûr que c'est vraiment pas donné. Puis là, on va être franc avec vous, tout le monde. Là, les véhicules partent un petit peu plus que dans 62 000 $ PDSF, là, si je me trompe pas. Et la version, bien entendu, la plus équipée, il va les toucher dans les alentours de 70 000 $ Ce n'est pas donné. Mais devinez quoi? Quand vous recherchez un véhicule comme ça, trois rangées, sport utilitaire, qui touche le luxe présentement, quand vous regardez dans des marques pas mal allemandes, parce qu'on se rapproche de plus en plus du côté de Mazda, la facture, elle est encore plus haute. Si vous recherchez un véhicule économique qui se démarque, puis en passant, j'en vois pas mal sur les routes, donc les gens doivent trouver ça intéressant. Seule chose à l'intérieur que je ferai une petite amélioration, c'est sur le système multimédia. Puis bon, tout ce qui est le levier de transmission qui est vraiment l'air d'un petit mignon. En tout cas, je vous enverrai une photo, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Mais autrement, c'est plus rapide qu'une version à essence et à avoir la possibilité de le brancher puis de pas avoir une borne de qu'on a dépensé 2-3 000 pots. Écoute, entre 12 heures et 15 heures, c'est totalement rechargé cette batterie-là sur une prise régulière, fait que c'est pas trop gros comme on dit, donc c'est intéressant pour ça. Ouais.
Question super pertinente d'un auditeur au 418-971-1021. Le gars est programmeur en automatisation puis il dit « Salut, je voudrais savoir à quoi ça sert de mettre des bébelles de sécurité quand les compagnies d'assurance augmentent constamment les primes parce que ça coûte plus cher à réparer et que de toute façon, on doit rester conscient et vigilant. Pour moi, c'est un vrai gaspillage d'argent. »
Ouais, là, il y a une réflexion globale sur l'ensemble de la planète. Hein. On s'entend que c'est pas tous les véhicules qui sont flambant neufs et équipés de ça. On s'entend aussi que c'est à se demander des fois comment les gens ont obtenu leur permis ou si même ils en ont un valide. Hein. On les spot assez vite. Là. Celui qui met des flasheurs là, pour se tasser dans la voie d'accotement en pensant que c'est une voie là, quand tu montes sur Capitale, là, pas mal dans le haut de Beauport. Je vais être franc avec toi, là, je regarde un peu croche. Je me demande où est-ce qu'ils ont obtenu leur permis. Et souvent, c'est pas nécessairement nous hein, qui créons l'impact, mais souvent, c'est des véhicules qui sont pas équipés de rien, qui sont en décrépitude et non seulement qui roulent avec des savons comme pneus. On a un travail global à faire attention aux véhicules autour de nous et non seulement arrêter de coller au cul parce que de ce temps-ci, ça n'a pas de sens.
Ouais, en lien avec les capteurs, des fois, qui peuvent s'encrasser avec la slotch et tout ça là, pour la conduite automatisée, il y a Jeff qui nous a écrit tantôt, il dit « Mon F-150 couvert de sel après 1200 km de route, les capteurs pour les angles morts n'ont pas allumé. » Il a dit « J'ai fait un méchant saut. »
Oui, mais c'est ça l'affaire. Faites attention, hein. Le côté automatiste, le côté système de sécurité est là pour vous donner un coup de main. Mais si vous voulez garder vos réflexes bien aiguisés, continuez de vous entraîner à faire vos angles morts et non seulement de douter du système une fois de temps en temps.
Je me sens maîtresse d'école, puis je me sens pas dans l'ouverture d'esprit, là, mais je le comprends pas, ça. Se fier à 100% là-dessus, pas continuer de le faire. Je veux dire, je suis passagère, puis je gosse parce que je fais l'angle mort avec le conducteur. Tu sais, je le saisis pas, ça.
Ouais.
Ben, quand j'étais honnête, je l'ai dit, je suis passagère, je gosse. Parce que...
pas juste quand t'es passagère.
Prépare ta règle pour tes punitions, parce que comme tu viens de voir, il y en a qui se fient juste à ça. Donc peut-être qui sait qu'il y en a qui méritent quelques corrections.
Que les fautifs s'en viennent.
Matt, pour les gens qui veulent en savoir plus sur le merveilleux monde de l'automobile, question auto, car question sur YouTube?
En plein ça directement. Allez voir sur YouTube, non seulement la page Facebook de Question Auto, la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est moi qui fais l'essai de la balayeuse à l'intérieur de la Toyota Sienna. J'avais amené le petit firmin, puis le petit firmin a fait un bordel avec ses céréales en arrière du char. Bon, on a pu vous montrer comment la balayeuse sert, si jamais vous en voulez une.
Il s'appelle-tu Firmin pour de vrai?
Ouais, c'est des personnages que je crée, mais si tu te rappelles, Firmin est un personnage intéressant d'une série du passé que je te laisse googler. Mais tu vois, des fois, je vais chercher des noms comme ça quand je fais mes vidéos. Les gens sont toujours intrigués. Donc, on l'a appelé Firmin pour de vrai, ouais.
C'est juste que de l'appeler Firmin en 2025, il y a de fortes chances que quand lui deviendra adulte, sa sexualité, ça va être un peu plus longue avant qu'il la découvre.
C'était tellement pas
ouais, mais dis-toi que ma gang de montage de vidéos, moi, je voulais l'appeler le petit Jérémy, mais on m'a coupé ça, fait que on est allé avec Firmin.
Bon, ben, super, les gars, on a pris la route. Merci beaucoup pour votre passage.
Il y a combien de Tinder, il y a combien de Firmin qui score sur Tinder? Ça serait une bonne statistique.
Prends le clou avec ton char, là, Yannick, là. Raccroche.
Bon, ben, Matt, on va raccrocher, on va dire des niaiseries. Quoi qu'on avait déjà bien commencé.
Take care, bon après-midi tout le monde.
Salut, l'excellent Mathieu Thomasin.
Oui. C'est quand tu switches?
Quand je switch...
De voiture?
Je t'aveugle, sérieusement, là, avec mon véhicule qui n'est pas du tout adapté à trois personnes, mm-hmm. surtout trois personnes qui partent la fin de semaine pour des tournois de hockey et tout ça. Je l'avais acheté pour le look... pour le fait que je pouvais enlever toute la toile puis avoir fun, comme tu sais, moi c'est un Jeep Wrangler, fait que l'été j'enlevais la toile puis je tripais là, ça faisait décapotable un
j'ai
peu.
Adoré ça, j'ai eu ça 3 ans puis j'ai eu de la peine à m'en départir.
Quand je pars la fin de semaine avec le linge des gars dans un sac, non. plus 2 poches de hockey, plus les 3 bâtons de hockey,
t'as
plus
4 portes ou 2 toits?
J'en ai 2.
C'est ça que j'avais aussi. Puis pour vrai, même un de mes chums avait de la misère à embarquer en arrière. Là.
Ouais.
Je suis montée au Saguenay avec les deux. Là. Puis plein de stocks de camping. Là. Ben, je sais pas comment tu fais chaque week-end.
Moi, c'est
avec
les
des
gars qui ont choisi ce char-là. Fait que je l'ai acheté. Mais tu vois, aujourd'hui, ils me disent qu'ils aimeraient ça avoir la même affaire, mais 4 portes. Là. Lui, eux autres, ce qu'ils trouvaient, c'est qu'il était surélevé puis il était tout petit. Ils trouvaient ça vraiment nice. Moi, je l'ai essayé. J'aimais la conduite puis j'avais bien du plaisir. Mais là, on dirait que je suis un peu.
Ben, 2 portes.
Mon
là.
Trip est pas mal passé.
Y a-t-il encore des gens qui aiment ça? Je comprends le look sportif, mais 2 portes pour moi.
Ah,
là...
mais célibataire, sérieux. C'est moi, c'est le char de rêve.
Ah, mais non, mais quand tu mets ton. Je comprends, sûrement tu fais pas ton épicerie, là. Toi, tu commandes la pizza congelée à chaque
non,
fois.
Non, mais,
mais
même là, tu couches les 2 bancs en arrière, là. Ça fait comme une grosse place
un
pour
grand
mettre tout
coffre,
ton stock.
Oui, oui, mais je sais
c'est
pas.
Un 2 places.
C'est tellement gossant, là. Un 2 portes. Tu essaies de mettre ton stock. Faut que tu baisses quand même ton banc passager. Il y a rien de le fun là-dedans. Je comprends pas quelqu'un que ça l'importune pas quand il y a ça. Importuné, est-ce que tu connais ce mot-là?
Oui. Okay. Christian, il dit finalement, Pascal, c'est un pare-feu.
Je sais. Je trouve ça dur des fois.
On me dit trop drôle, Yannick.
Ah, où ça? J'ai pas vu ça, moi.
Ah, j'ai un nouvel ami.
Ouais. Je cherche encore, là.
Sa blonde n'était pas dispo pour passer l'aspirateur. Haha, genre de commentaire à Yannick.
Là, gang, c'est jeudi, là.
Haha, moi aussi, je suis la passagère gossante qui check tout comme si je conduisais moi-même.
Yes! Une autre.
Elle m'a une question célibataire, elle aussi. Moi, j'ai enlevé la banquette arrière. C'est ce que je devrais faire, Pat.
T'as ri de ta joke, là?
Oui.
Raccroche.
Courte pause, on revient. Unionévasion.com. Bon, t'en as fait bien rire tantôt des gens quand tu disais que c'est toi qui faisais les angles morts quand t'étais assis côté passager, quand t'étais dans un véhicule. Il y a Julien qui nous écrit, il dit « Faites-vous-en pas, ma blonde parfois est assise à côté de moi sur le côté passager, puis quand je conduis, et lorsque je fais de quoi, elle pèse sur une pédale à frein imaginaire quand elle est stressée. »
C'est cute quand elle est stressée à frein!
Ouais.
Moi, je pogne la petite poignée, là, ouais. Tu sais, la poignée, là,
ouais.
quand il y en a, là, comme si ça allait me sauver de tout accident.
Ben oui, je
m'accroche.
Mais si c'est là, ça doit être pour une raison, là.
Je sais pas laquelle. Tu sais, à quel moment t'es de même? le bras en l'air, sa poignée, à part quand t'as peur.
C'est des ingénieurs qui ont pensé à ça. Les ingénieurs qui ont pensé.
Je vais taper, continue.
Ce qu'il dit, c'est sinon, ce que j'aime, c'est lorsqu'elle vient pour prendre une gorgée de quelque chose sans paille et je break sec.
C'est smart, Julien. Vraiment, t'as sûrement une belle Saint-Valentin.
Il dit, moi, c'est pour accrocher mes vêtements.
C'est vrai qu'il y a un petit crochet.
Ouais, c'est ça. Hey, je vous parle de quoi? Je vous parle de la belle gang de Marlin Chevrolet Buick GMC. Des gens que j'adore. C'est une nouvelle administration, soit dit en passant. Pour tous ceux qui ont été chez Marlin dans les dernières années, vous étiez satisfaits, bien sachez que maintenant, vous allez être plus que satisfaits avec la nouvelle administration qui vient de rentrer dans place. Les employés sont redynamisés chez Marlin Chevrolet Buick GMC. On vous offre aucun paiement pendant 90 jours au financement sur nos Equinox EV Blazer. Ou Hummer aussi, tout ça c'est électrique. Puis si vous voulez pas l'électrique tout de suite, ben il n'y a pas de problème, on a pensé à vous autres aussi. Obtenez un taux de financement aussi bas que 0% sur nos modèles les plus populaires, tels que les Silverado et Sierra 1500. Une seule adresse, 2145 rue Franck-Carrel, chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Allez dire un petit coucou de ma part.
Hey, c'est vraiment pour se tenir en cas de mouvement brusque, fait que c'est sûrement... Je pense que ça va être vraiment genré, mais sûrement une femme qui a pensé à ça, là. C'est écrit « Les poignées de la voiture servent à se tenir, surtout dans les courbes, si elles sont prises plus vite que la normale ou encore lorsqu'un conducteur roule trop vite. » C'est inventé majoritairement. C'est pour ça, il y a quelqu'un qui disait « Pour les personnes à mobilité réduite et autres, j'ai pas vu ça, les explications. »
Il y en a qui peuvent prendre ça pour sortir du char.
Ouais, mais c'est de façon concrète, ça a été pour se tenir, ça roule trop vite.
Je l'ai déjà fait. J'avais un char qui était quand même assez bas. Puis pour me sortir du char, me donner un swing, je prenais la poignée.
Mais là, c'est vraiment pour les mouvements brusques, la vitesse. Fait que soit c'est une femme par peur, soit c'est un homme pour qu'ils disent « Tiens, poignée, bébé! »
Classique. All right. On vient.
C'est pas parce qu'on te parle pas.
Avec nos beds musicaux, là.
1h19, vous êtes sur les ondes de boulevard 102.1. Pascal CV qui est là, mon nom c'est Yann Marceau, très content de vous accompagner jusqu'à 14h. 14h, c'est Denis Gravel qui prend place avec Véro et Audrey. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir, 18h, avec l'homme d'affaires et ex-policier William Trudel de Trudel Alliance. On va parler de plein de sujets. Bien sûr qu'on va parler d'immobilier puisque c'est ce qu'il fait maintenant de sa vie, mais on va parler aussi de sa carrière de policier parce que c'est un policier qui, bon, il a été patrouilleur comme tout le monde, mais c'est un gars qui allait faire des missions aussi à l'étranger. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Fait que William va se joindre à nous vers les entours de 18h. Confrontation des quatre nations ce soir. Yes. C'est la grande finale Canada contre les États-Unis. C'est à 20h. Nous autres, on va être dans un petit débit de boisson à Québec avec les copains. Puis, on va vouloir que Sidney Crosby marque le but gagnant en période de temps supplémentaire quand il reste une ou deux secondes au jeu.
T'as pas des grosses demandes, toi,
Crosby,
Yannick.
Crosby arrive, the golden goal!
En tant que grande fan de hockey, connaisseuse principale ici à Boulevard 102.1, oui. J'espère vraiment qu'on va make Canada great again ce soir.
Oui, ben oui, bon.
Oui, c'est ça. Oui, bon, oui, go sportif, non blessé sur la glace.
Tu t'améliores, je suis en train de te transformer. nomme-moi deux joueurs à la défense du Canada.
Pascal CV, le défend constamment, pays. Exact. Martin Bourget aussi le défend beaucoup, son pays.
OK, c'est correct. Donc, 20h ce soir, tu vas être avec moi. Fait que
malheureusement.
On fera une petite vidéo pour les auditeurs pour lui souhaiter bon match. Yes. De ce pas, on va rejoindre notre ami Martin Bourget d'Aventure Chasse-Pêche. C'est le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Et les amis, si vous tripez à faire de la motoneige, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de motoneige, n'écoutez pas les prochaines secondes. Fermez la radio parce que Bourget s'en va se payer un trip au Mont-Valin dans la neige folle. Ça va être complètement fou. Je vais t'avouer que je suis un peu jaloux de toi, Martin.
Bon, qu'est-ce qui se passe là? Mais écoute, embarque dans un trip de même. Il en reste des motoneiges, là, on a de la bouffe en masse, non?
Écoute, ça m'a pris 30 secondes de faire des enfants à peu près, puis là, je pognais que ça jusqu'à la fin de mes jours. Fait que je vais m'occuper d'eux en fin de semaine, mais t'es bien fin de me l'offrir pareil pour me briser le cœur.
Hey, by the way, je fais juste continuer sur ton hockey vite de même, juste rapidement. Savez-vous qu'à soir, au tournoi international de hockey Pee-Wee Québec, il y a une game petit nordique contre les Suisses?
Ah non,
ils ont gagné. Les Suisses ont gagné hier. Donc, ce soir, à 18h, ça va être cool quand même. Là. Thornton est en arrière du banc. Les Suisses contre les petits Nordiques, à soir, 18h. C'est quand même, tu sais, quand on dit, ouais, joue comme des Pee-Wee. Puis, vous n'avez pas vu des Pee-Wee jouer. Ça joue en
Je savais pas que Joe Thornton était à Québec. Puis, c'est un de mes chums qui travaille dans une boutique de chaussures à Place Laurier qui l'a vu passer, puis il m'a dit « Yann, je viens de voir Big Joe Thornton. » Et là, voyons, qu'est-ce que tu veux qu'il crée ce site? Puis là, j'ai réalisé qu'il y avait le tournoi international de hockey, puis oui. Puis en regardant un peu, ben il est derrière, là, il est coach d'un de ses enfants, de ce que je comprends.
Ben, il y a un de ses enfants dans l'équipe suisse, puis il est en arrière du banc. T'sais, il n'est pas coach principal, il est probablement adjoint ou je ne sais pas trop quoi, mais il est très présent, puis on le voit s'adresser aux joueurs en masse, il est super proactif. T'sais, ils ont gagné hier, fait que c'était un petit peu la promesse inattendue, à savoir si on allait avoir ce match-là, le fun pour les gens de Québec, évidemment. Là. Là, ben, c'est là.
Mais c'est quand même fou là, qu'il ait été faire un tour à Place Laurier. Puis que, tu sais, des fois, tu tombes en face de quelqu'un. Moi, je t'avais déjà parlé, Pascal, de Catherine Zeta-Jones puis Michael Douglas. Ouais. T'es en train de manger d'un restaurant dans le Vieux-Québec, puis il y a une dame qui me fait juste un petit sourire, mais c'est un petit sourire bien simple, mais je le regarde, je me dis, donc, ben belle, cette madame-là. Puis là, elle s'en va vers les toilettes, puis quand elle revient, elle s'assoit. Puis là, je me rends compte que c'est Catherine Zeta-Jones, l'actrice hollywoodienne, tu sais. Mais eux autres, ils habitent au Québec, ils sont dans les Laurentides. Ils ont un chalet dans les Laurentides. Ouais, ce que je savais pas.
C'est bizarre, t'as pas parlé de Michael Douglas, ben. Voyons. T'as pas parlé de Michael Douglas, ben. Tu te rappelles plus de Catherine Zeta-Jones?
Ouais, ben lui, il est laid comme un cul de singe, là. Mais
j'ai regretté de poser ma question.
Elle, c'est une déesse. Là. Je pense qu'elle doit avoir 55-60 ans aujourd'hui.
Une des plus aujourd'hui. Belles femmes d'Hollywood.
Elle est magnifique. Là. Puis elle est vraiment... tu sais, Michael Douglas, c'est un gentleman, ce que le serveur me dit, parce qu'ils vont régulièrement dans le Vieux-Québec.
Ah, Yannick, il lance le pot, puis après ça, il donne les fleurs.
Ouais, il va régulièrement dans le Vieux-Québec, Michael Douglas, 2-3 fois par année. Puis elle, ben, c'est sa mère.
Qui vient presque à tous les années, et tu sais, je veux dire, il y a plein de restaurants italiens à Québec, là, bon, c'est la deuxième fois qu'on les voit là, du côté du parmesan, puis tu vois, ils nous questionnaient sur les bateaux qu'ils pouvaient louer pour aller à la pêche le lendemain ou dans leur prochaine tournée ou virée ou etc. La gang de Billy Idol.
Ah, ouais.
La gang de Billy Idol. On était, je dis là, sur le trottoir pendant 45 minutes à jaser avec le bassiste puis les gars du band à savoir comment est-ce qu'on pouvait leur organiser un trip de pêche au doré sur le fleuve, là, cette année, en 2025, là. Hey, tu sais jamais à qui tu parles.
Exact. Puis, j'avais il y a quelqu'un que je connais aussi qui avait rencontré Eddie Murphy dans un ascenseur à New York. Puis Eddie Murphy, il aime pas les êtres humains. Puis ce qu'on nous disait de lui, il était foncièrement raciste. Il aime pas beaucoup les Blancs, Eddie Murphy, dans sa vie normale. Là. Puis la personne qui l'avait rencontré avait tenté de lui parler puis d'avoir un autographe. Il voulait absolument Jess avoir.
Ah ouais, c'est spécial pareil. Ben, c'est le peuple qui t'a fait gagner ta vie, ta gloire. Puis c'est un peu, c'est très imbu. Hein. Très imbu, très mesquin.
En même temps, Martin, ils ont pas de vie. Là. Tout le monde les achale tout le temps. Là.
Ah, c'est sûr. Ouais, ben, je veux dire, à un moment donné dans la vie, t'as des choix, hein, t'as des carrefours, puis c'est toi qui punch in ou tu punch out. Là, fait que je comprends, mais ça demeure un choix. On le vit, tu le vis, Pascal le vit. On sait offrir des coupages de rose à break autant que des demandes d'autographes dans nos vies, puis c'est ça.
Maintenant, c'est qui s'en fait le plus offrir des coupages de rose à break?
Pocket.
Tu connais-tu les conditions météorologiques dans le coin des Monts-Valin? Là, tu t'en vas faire de la motoneige. J'imagine que tu vas regarder un peu ce qui se passe avec la faune, là, les orignaux qui doivent traîner dans les trails de motoneige.
Ben, c'est sûr et certain que ça, c'est toujours un impondérable. Je te dirais que la météo, moi, je ne l'ai même pas encore regardée. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a des guides qui organisent ce genre de circuit-là, qui justement suivent la météo, qui vont nous dire « OK, gang, c'est tel jour qu'on part ». Parce que avec les conditions météorologiques, avec le circuit qu'on a à faire, on a 7 jours de motoneige à faire quand même, c'est quand même beaucoup. Eux autres vont s'organiser pour qu'on soit dans les bons endroits au bon moment, qu'il n'y ait pas trop. Et je te donne un exemple, il y a une journée où est-ce qu'on va vraiment faire les sommets de montagne des Monts-Valin pour aller faire des prises de vue en altitude, pour avoir une vue sur les Monts-Valin. Mais ils ont choisi les journées où est-ce que le plafond atmosphérique va être le plus élevé possible, question qu'on ait une vision la plus claire possible, et non pas qu'on se retrouve finalement direct au-dessus des nuages, puis on voit rien. C'est un des avantages à faire avec des gars qui organisent ce genre de trip-là. C'est penser, puis ils ont 10 itinéraires possibles. Ils vont l'aménager suivant la météo, suivant les conditions. Ils savent qu'il y a des groupes de Français qui arrivent tel jour dans tel secteur. On n'ira pas là pour pas être 250 motoneiges en même temps. Ils vont amalgamer ton séjour pour que tu puisses en jouir le plus possible. Parce que les autres, au bout de la ligne, c'est des commerçants. Ils veulent que tu rebookes avec eux autres, fait qu'ils veulent que tu vives une expérience incroyable puis que tu réserves pour l'année d'après. Donc, ils s'organisent que tu vives le plus beau trip possible.
Martin, je suis assez alerte sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe là, dans la vie des gens. Puis cette année, je pense qu'on va les féliciter. Là. On n'a pas eu de vidéo encore de motoneigistes qui pourchassent des orignaux puis des chevreuils. Je pense que le message a bien été compris de la part de la population. C'est-à-dire que quand il y a un orignal qui est là dans la piste, attendez qu'il quitte. Puis après ça, vous pouvez passer parce que le poursuivre, vous allez le tuer. Là.
Ben, définitivement. Il faut comprendre que cet animal-là est en ravage hivernal. Il a cumulé toutes les réserves possibles d'alimentation, ben, de gras, en fait, pour passer son hiver. Et juste le fait de sortir de son ravage pour aller s'alimenter et revenir, c'est un calcul qui peut être mortel dans la dépense d'énergie par rapport à l'énergie qui va aller y apporter sa bouffe. Fait que si, en plus, déjà qu'il va avoir de la misère à monter le remblai de neige sur le bord de la trail, que tu cours après, tu viens probablement de tuer un orignal, peut-être. 50 % des chances, tu viens de le tuer. Il faut savoir que c'est illégal aussi. C'est un geste de braconnage et ça peut être réprimandé de manière très, très forte. Est-ce que cette année, c'est parce que le message a été compris ou que ça n'a juste pas à donner? Écoute, on vient d'avoir des grosses bordées de neige. Allez, jusqu'à il y a 2 semaines, les orignaux, les chevreuils se promenaient pas mal n'importe où dans le bois sans avoir à se taper de trail hivernal parce que la neige n'était pas suffisamment gênante. Là, il y a des bonnes accumulations et les orignaux, les chevreuils vont commencer justement à emprunter les trails qui sont déjà tapés, donc les trails de motoneigistes, etc. Question de ne pas trop utiliser d'énergie. Donc, si il y a ce genre d'événement-là qui a à survenir cet hiver, c'est plus à venir que ça aurait pu arriver dans les derniers mois parce qu'ils étaient libres de se promener où est-ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas assez de neige.
Est-ce que, là, j'imagine que tu t'en vas juste là faire de la motoneige, il n'y a pas de chasse à faire à ce temps-ci de l'année?
Ben, en fait, là, le lagopède, si je me trompe pas, là, tu me pognes brûle pour point. Je pense que le lagopède est fermé d'ailleurs. On fait, je vérifierai, là, je te redonnerai les dates exactes, là, mais il n'y a pas de chasse de toute façon à ce temps-ci de l'année, vraiment de manière active. Le petit gibier est fermé. Donc le lagopède doit être fermé aussi. Oui, le lagopède est fermé. Ce qu'on fait, c'est à ce temps-ci de l'année, c'est surtout de la pêche blanche. Donc, dans ce genre de séjour-là, dépendamment de ce que tu vas choisir de faire, on va s'entendre, là, il y a énormément d'opportunités. Nous autres, on y va pour, oui, faire les haltes touristiques qu'on propose aux motoneigistes. On va sortir, mettons, à la microbrasserie, à Châtel, à Si, à aller manger à telle place. Tu peux faire des circuits thématiques différents. Nous autres, on a choisi de faire le circuit thématique avec la pêche blanche. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va sur différentes pourvoiries ou encore des lacs qu'on ne pourrait pas rejoindre l'été parce que ce serait trop ardu de passer au travers de ces territoires-là. Là, la neige nous permet de s'y rendre puis d'aller faire de la pêche blanche à ces endroits-là. Il y a d'autres purposes, par exemple, en nature. De notre côté, on fait de la pêche, on fait de la chasse. On n'est pas les seuls utilisateurs du milieu faunique. Il y a énormément de gens qui vont faire ce genre de randonnée-là juste pour faire du kilométrage et voir des paysages. Il y a des observateurs de la faune aussi. Ouais. Il y a du lynx dans les Monts-Valins. Il y a évidemment de l'orignal, du chevreuil dans les Monts-Valins. Il y a énormément du chevreuil dans le bas des Monts-Valins. Hein. Mais il y a de l'orignal dans les Monts-Valins. Il y a de la faune vivante dans les Monts-Valins à ce temps-ci de l'année. Et on voit des gens prendre des trips de motoneige de même. Puis la plus grosse partie d'équipement qu'ils amènent, c'est leur objectif d'à peu près 500 mm avec un doubleur pour aller prendre ces photos-là qui ne sont prenables que dans la vallée des fantômes, par exemple, qui est légendaire. On peut pas aller jouer en hors-piste dedans, mais on peut se rendre pour prendre la photo. Puis si je te dirais, un des purposes de ce genre de trip de motoneige-là, puis tu sais, nous autres, on fait 7 jours. Il y a des gens qui peuvent faire affaire avec... Il y a plein de compagnies par là-bas qui font ça. On va vous présenter ceux avec qui on fait affaire quand on fera le reportage. Hein. Mais on peut le faire 7 jours comme on le fait. Ça peut être un 2 jours, ça peut être un overnight parce que tu as juste une nuitée. Nous autres, on a quand même 6 nuitées.
Puis il y a quand même quelque chose. Là, tu parles de motoneige, mais moi, les Monts-Valins, je les ai fait en raquette sportive. Là, mais il faut que tu aies un guide. Puis c'est un des plus beaux trips que j'ai fait à vie. Dans toutes les expériences que j'ai vécues, là, j'ai jamais ri et trippé de même. Puis les émotions fortes sont quand même là parce que des fois, t'es à côté des ravins puis tout. Si vous avez la chance de le faire, peu importe comment, c'est à faire. La Vallée des Fantômes, c'est là où j'étais. Puis la CEPAC, pour pas la nommer, a des chalets en montagne comme ça, un petit peu plus isolés, avec de l'eau chaude et autres pour les personnes qui sont un peu plus princesses. Il y a aussi des refuges qui en ont pas, mais ça vaut le détour.
OK, mais je veux dire, tu dois bien dormir le soir. C'est vraiment physique. Ça doit être hallucinant.
Tu sais, des fois, tu sautes, là, Yann, OK? Puis, tu prends un arbre, okay, tu vas voir juste un petit troufillon de sapin. Puis là, tu dis, ah, c'est un bébé sapin, c'est un tout petit sapin. Non, non, c'est parce que la neige est montée jusqu'au dessus du sapin. Si toi, tu sautes collé sur la branchaille, tu vas creuser jusqu'à la... Oui, Martin, certain lycée. Tu vas creuser jusqu'au bas du sapin, t'es pris là.
C'est très impressionnant. Puis tu sais, dans notre cas, là, toi, t'étais un petit peu plus bas. On s'en va vraiment au nord des Monts-Valin. Donc, on va monter dans le coin là, de ceux qui connaissent les pourvoiries dans ce coin-là. Là, on monte à la hauteur, mettons, de Québec Nature, Clos-Parro, Omamo, dans le haut. Ça fait que quelques années qu'on peut se rendre là en camion l'été. Avant, c'était des destinations, entre autres, Omamo, qui était strictement qu'en hydravion. On va monter jusque-là. Fait que, imaginez, on s'en va s'isoler de toute pollution lumineuse. Si on a des plafonds qui sont élevés ou complètement absents, le chaud d'étoiles le soir, l'hiver comme ça, là, ça vaut le déplacement. Et les paysages des Monts-Valin changent au fur et à mesure que tu progresses dans les Monts-Valin. Déjà, l'été, c'est un secteur qui est incroyable, mais vraiment, la rivière Tagi en haut est canotable de A à Z. Les expéditions en canot en haut, on en a filmé à la pêche à la mouche, assez hallucinant. Wow. Les truites indigènes du nord du Québec qui vont toutes fesser, toutes les grandes rivières du nord vont fesser dans le lac Itomamo. Ils se pêchent de la truite mouchetée de 6 livres et demi dans ce lac-là. Des lacs qui n'ont jamais vu un pied plat, jamais de leur vie, tu es le premier à aller te baigner dedans. C'est un secteur qui est mythique, puis de le faire en hiver, ça te permet d'accéder à des endroits que tu ne pourrais jamais accéder en été, tout en ne brisant pas l'écosystème. Évidemment, si tu n'en vas pas en freestyle dans les ravages d'orignaux, on va s'entendre, là, si tu respectes tout ça, mais tu le fais en laissant très peu ou pas de traces derrière toi. Fait que c'est très intéressant aussi au niveau éco-responsable comme randonnée à faire.
Ça peut coûter combien une expédition de ce genre-là? Advenant le cas, les gars, ils nous écoutent, là, ils ont leur motoneige. Ça peut coûter combien à peu près?
J'ai aucune idée des coûts. Aucune idée des coûts. Je te promets que je te reviens avec quelque chose là-dessus, mais j'ai aucune idée des coûts de location.
On s'en tire-tu avec 1 000 $, tout inclus la fin de semaine là, pour 4 jours?
D'après moi, amplement, mais ça va dépendre. Puis la raison pour laquelle je ne veux pas trop m'avancer, c'est que les forfaits vont partir de, justement, tu as ta motoneige, puis tu te rends là, et puis tu vas faire du sentier, donc du sentier déjà balisé, donc tu n'as pas, mettons, besoin de guide, on te dit tu te rends de telle pourvoirie à telle pourvoirie, on te donne le chemin. Tu as l'option avec un guide. Est-ce que le guide, comme dans notre cas, là, on ne traîne pas de bouffe, là. Les guides traînent toute la bouffe, on est en plan américain, ils font de la bouffe toute la semaine. Fait que tu sais, tu pars de autonome avec point A, point B, point C, que ben oui, ben en bas de 1 000 $, tu t'en tires. Aller jusqu'aux grosses expéditions en hors-piste, où est-ce que des guides spécialisés en hors-piste vont donner un cours de hors-piste et etc., vont faire de la bouffe dans le banc de neige. Là, ben, tu peux mettre un petit peu plus de bidou, mais c'est un autre trip. Donc, il y a tellement... C'est comme tu me dirais, c'est quoi le prix d'un char? C'est aussi vaste que ça, parce qu'il y a énormément de possibilités, mais oui, en bas de 1 000 $, tu peux t'en sortir.
Puis Martin, on va se le dire, la pêche blanche, initier nos enfants à la pêche blanche, nous autres, on a la chance à Québec d'avoir le village nordique, là, à Québec, au Vieux-Port de Québec. Je parlais encore avec des parents, en fin de semaine, des parents qui ont été faire un tour, puis ça laisse tellement des souvenirs imprégnés dans la tête des enfants. Ils vont se souvenir de ce moment-là toute leur vie. Fait que, tu sais, pour les gens qui n'ont pas la chance d'aller au Mont-Valin, bien, sachez que pour de la pêche blanche, on a ça directement au centre-ville de Québec. C'est une super de belle activité à faire. Y a-t-il des règles pour la pêche blanche, Martin?
Ben, ça dépend où est-ce que tu es. Si tu es en territoire géré, si on le veut, comme par exemple justement un lac dans les Monts-Valin, ça te prend ton permis de pêche. Et les quotas provinciaux sont applicables. Il y a des exceptions dans des endroits qui sont considérés comme des étangs de pêche, c'est-à-dire un lac qu'il n'y a pas de tributaire, qu'il n'y a pas d'entrée, pas de sortie, si on le veut en parenthèse, qu'il y a des sources souterraines, qui a été homologué comme étant un étang de pêche où est-ce qu'on va ensemencer du poisson. Mais là, c'est calculé comme une pisciculture. Alors, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'avoir de permis de pêche. Sinon, tous les lacs et rivières qui sont régis en été sont aussi régis en hiver. J'ai une partie de réponse à ce que tu nous disais tantôt, tu vois, là, de partir de 580 $ des forfaits au Vélinois, service pour un guide, groupe de 1 à 5 personnes, 580 $ par jour, aller jusqu'à, tu vois, là, il y en a, puis là, ça, c'est des forfaits guidés dans ce cas-là. Là. Mais je suis dans une page, là, déjà, dans la page où est-ce que je suis, là, il y a des centaines d'options. Là. On part de 300 $ à 1 160 $ par jour sur des grosses expéditions.
Martin Bourget, poursuivez vos aventures chasse-pêche, on vous suit à quel endroit?
Tous les 21h du côté de Télémag, le jeudi, 21h du côté de Télémag. Évidemment, vous nous suivez sur Facebook, sur notre page ACP, sur aventurechassepêche.ca. On est toujours en live les jeudis soirs. On vous accompagne dans l'émission maintenant. On tombe en live dans le coin de 19h, 18h, voyons, 20h, ça va bien. 20h, on tombe en live. Bon, là, ouais, je suis en train de m'en faire jouer en valeur. 20h, on tombe en live. Puis à 21h, quand l'émission start, on vous start l'émission en live, puis on l'écoute avec vous autres. C'est le fun parce que le monde commente sur ce qui se passe dans l'émission, puis les animateurs sont là pour répondre. C'est super trippant.
All right. Donc, je te souhaite de passer un beau voyage là-bas au Mont-Valin, puis ramène-nous de belles images comme toi seul sais le faire avec ton ami Kate.
Yes, c'est good. Merci les chums.
Salut.
Salut.
L'excellent Martin Bourget. C'est un beau trip, là, les Mont-Valin en motoneige. Là, toi, tu l'as fait en raquette, ce qui est un peu moins mon genre, là, des grosses expéditions en raquette.
C'était pas si mal, pour vrai. Puis, tu sais, on revenait dans un chalet, puis moi, ça, j'ai été impressionné qu'il y ait de l'eau chaude, un foyer. On était confortable, là, honnêtement, parce que j'ai fait beaucoup de rando de raquette dans des shacks où t'as rien, là. T'as pas de courant, t'as pas. Fait que tu traînes toute ta bouffe avec tes ice packs, puis là, tu mets ça dehors, puis ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Faut que tu te réchauffes au foyer, faut que tu te lèves la nuit.
Moi, ça serait en motoneige. Tu pèses là-dessus, ça avance.
Mais c'est mon rêve, là. Il y a un représentant ici, pour pas l'appeler, le directeur des ventes, qui vient aussi le vendredi, qui s'appelle Coach Gilbert, qui va tout le temps avec sa famille. Puis à chaque fois, je suis comme, t'es-tu sûr que ton beau-père, il est célibataire parce que. Il est pas célibataire parce que moi, je pourrais venir en motoneige avec vous autres dans mon valet.
Mon ami. OK. Jérôme 50, la plus belle fille du mosh pit sur les zones de boulevard. On vient après.